Nous sommes mercredi 24 septembre 2025, c'est l'anniversaire d'Antix. Vous écoutez le Dojo Bar. Bah bonsoir à tous, bonsoir Mecton.
Eh bien bonsoir.
Eh bien, voilà, bon anniversaire Antix et Alarmo, oui peut-être que Alarmo est aussi. Je sais pas si c'est son anniversaire Alarmo, non je pense pas.
Ah je sais pas.
Je me souviens plus. Bref, bonsoir Mecton tout seul. Encore
eh
une
bien,
émission
bonsoir.
Voilà, un petit peu intimiste. Parce que bah voilà, Monsieur Antix est en train de fêter son anniversaire sans nous, il a bien raison. Il a raison d'essayer d'en profiter le plus possible. Monsieur Jean Fulgence est extrêmement occupé en ce moment. J'espère qu'il reviendra bientôt, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu le bordel. Je comptais un peu sur Méduse, donc là je vois que je suis un petit peu déçu. Hein, bah quand même,
ouais, tu vois, c'est faut qu'on arrête de faire les émissions sans alcool. Personne vient après.
C'est ça, en plus c'est sans alcool. Voilà, il n'y aura pas de tour de table de l'actualité cette semaine parce que nous avons non pas un, non pas deux, non pas trois. Mais 4 Nintendo Direct à rattraper de cet été.
De Dieu.
Not de Dieu. En tout, sur l'été, là, juste l'été, si on compte de juin à septembre, on a eu 7 Nintendo Direct.
Tu vois, c'est le réchauffement climatique, ça. L'été est de plus en plus long, du coup, il y a de plus en plus de Direct.
Exactement, j'aurais pas dit mieux. On a eu un Pokémon Presents, les deux Nintendo Direct dédiés à Mario Kart World, la Switch 2, Donkey Kong Country Bonanza. On a eu un Nintendo Direct Partner Showcase le 31 juillet, un Indie World le 7 août, un Kirby Air Rider le 19 août, et il y en aura un autre au mois d'octobre. Et le Nintendo Direct du 12 septembre, celui de la rentrée qu'on attendait un peu. Donc voilà. Alors... Le seul avantage qu'on a, c'est que finalement, bah, il y a eu pas mal de recoupements entre tous ces trucs-là. Donc, on va essayer de balayer assez rapidement tous ces Nintendo Direct. Voilà.
LOL.
Oui, LOL. Mais on va quand même essayer. Voilà. Encore une fois, il y a tout un tas de trucs qui ont été présentés avant, après, représentés de l'un à l'autre. Donc, on a quand même un peu de marge, malgré tout. Voilà. Et je propose de commencer par justement bah, les trucs qui se recoupent. Qu'on a vu plusieurs fois durant l'été, à commencer par Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection.
Tu le dis bien.
Merci. Je fais beaucoup d'efforts en ce moment. Donc, un nouveau Monster Hunter Stories. Alors, on rappelle que Stories, c'est le spin-off de Monster Hunter qui fonctionne plus comme une espèce de vrai RPG.
Oui. Ah, ouais. C'est complètement un vrai RPG.
Avec du tour par tour, avec une histoire à suivre, avec voilà. Donc il y a encore des histoires de chasser des bestioles, mais finalement c'est devenu très très secondaire au final.
Donc on bat des monstres. On est plus dans la capture, enfin limite à la Pokémon, mais. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de Nintendo qui a posé un brevet à partir du moment où tu captures une créature et tu peux l'invoquer après, c'est à eux.
Je sais pas. Il y a peut-être une tentative en ce moment. C'est vrai qu'ils osent un peu tout, hein, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais là, je pense pas. Enfin, bref, on en a pas vu grand chose, malheureusement. Ça a l'air très joli. Ça, faut quand même reconnaître.
Oui.
Monster Hunter Stories 1 et 2 étaient déjà des jeux très très beaux pour de la Switch. Hein, ça marchait vraiment bien. Là, ça a
oui,
vraiment l'air quali de ouf. Hein.
Un rendu animé très sympa. Et pour le coup, de ce qu'on voit de ces bandes annonces, alors je sais pas si c'est simplement parce que les persos, les héros, on va dire, j'imagine les persos jouables, sont adultes, mais le ton général fait plus adulte que les deux précédents.
C'est vrai qu'il y avait un petit côté, comment dire, sur Monster Hunter Stories 2. Alors moi je l'ai pas fait, mais j'ai le gamin qui l'a fait. Et il m'a dit il y a un petit côté, tu vois, pince sans rire un peu. Il y a un petit humour un peu grinçant qui marche assez bien, mais qui fait
ouais.
Un peu enfantin finalement au sens, ça ressemble à une série télé pour ados quoi. Là c'est vrai que ça a l'air un tout petit peu plus adulte. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, voilà, pour les gens qui ont bien aimé soit Monster Hunter, soit Monster Hunter Stories, c'est quand même une bonne nouvelle. Capcom ne s'arrête pas là, ce sera disponible courant 2026, si je dis pas de bêtises.
Ah, j'ai oui, plus les dates en tête. Ouais, ok.
J'avais noté ça. Ensuite, qu'on a revu aussi plusieurs fois, il y a eu Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau. Donc...
Ça fait un petit moment que j'ai pas fait un Musso, ça va me faire du bien.
J'attendais Pikmin Musso, moi, je suis un peu déçu.
Ah, mais j'y crois dur comme fer, un jour, pour l'anniversaire, tu vois.
Pourquoi pas, ouais. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est taper, 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 mais cette fois-ci dans l'univers de Tears of the Kingdom, qui va donc être la suite directe de celui de l'ère du fléau, qui était lui-même issu de l'univers de Breath of the Wild, qui lui-même était pas vraiment la suite, mais plutôt le spin-off de l'original, qui était juste dans l'univers de Zelda en général.
À suivre dans le passé ou précédemment dans le futur.
Précédently dans le in the future. Voilà. Mais effectivement, précédemment dans le Turfu, et on peut jouer le roi d'Hyrule Chèvre et sa compagne avec, je sais pas comment décrire ça, un putain de gros boule.
Ouais.
J'ai juste ça, elle est très bien, la reine
Brebis,
d'Hyrule,
brebis gros boule.
brebis gros boule. C'était nickel,
Ils
vraiment.
ont gardé les doubleurs de la VF, ça c'est chouette.
Ouais, surtout que je crois que la doubleuse de Zelda, on l'aime beaucoup, on l'a déjà dit, je ne sais plus son nom, je suis désolé, ça m'a échappé, j'ai pas son nom en tête.
Adeline Chetel, si je dis pas de conneries.
C'est. Oui, ça me dit quelque chose. En tout cas, elle est très très bien. Très
Et
expressif, alors.
le
C'est.
doubleur de Monsieur Book, c'est la voix française de Dennis Quaid, Kevin
Oui.
Costner, tout ce genre.
Tout à fait.
Très chouette aussi.
Et donc, bah, c'est l'occasion de retrouver des personnages dans des situations un peu incongrues, d'aller battre des tonnes d'ennemis, de se retrouver dans un univers familier, mais en même temps où on te raconte pas tout à fait la même chose. Voilà. Le dernier Musou qu'on a eu dans l'univers Nintendo, c'était Fire Emblem Three Hopes, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça.
Oui, le Iron Warriors Breath of the Wild était avant, donc oui, t'as raison.
C'est ça. Et c'était très chouette à chaque fois. Bah, c'est un peu toujours la même chose, hein, malgré tout, c'est toujours taper, taper, taper. Mais il y a toujours des petites nouveautés, des petits mécanismes, des petits machins, un petit twist. Toujours des petites choses sympathiques.
C'est chouette, c'est chouette.
On a eu aussi, alors pareil qu'on a revu plusieurs fois, The Adventures of Elliot de Millennium Tales, qui est donc un RPG en HD 2D par les créateurs d'Octopath Traveler et de Bravely Default, avec une démo disponible sur Nintendo Switch 2. A priori, ça ne sort pas sur Nintendo Switch 1, c'est une exclusivité.
Ouais, bon, c'est le jeu, hein. Techniquement, de ce que j'ai vu de la démo, il n'y a rien qui empêcherait
Ouais.
que ça tourne de partout. La démo est sympa, elle se plie en 2 heures de temps, ouais, c'est entre un Zelda-like et un Secret of Mana-like. Je déteste cette phrase, mais je vois pas comment
Ouais,
décrire
mais
autrement le jeu.
j'avais cru comprendre. Alors pareil, je l'ai pas fait, mais j'ai le gamin qui l'a faite, la démo, qui m'a dit effectivement, ça ressemble à un. Alors Secret of Mana, lui, il a pas la ref. Il m'a dit, ça ressemble à un Zelda un peu plus tradit.
Ouais,
On va dire ça comme
peut-être
ça.
avec une petite touche de vous rappeler le spin-off de Bayonetta où il y avait
Oui.
le chat qui allait avec.
Origins.
La même chose, sauf que c'est une petite fée qui te permet d'avoir des petits pouvoirs.
Bref. On attend de juger sur
À suivre.
pièce. Alors, si vous avez la chance d'avoir une Nintendo Switch 2, bah, profitez-en, la démo est gratuite. Ça permet quand même de se faire une petite idée de ce que ça va donner. En tout cas, c'est une bonne introduction, on va dire, à l'univers. On verra bien ce que ça donne. Pareil, alors, sorti très récemment, je crois, sorti en tout début septembre, on a eu Chronos The New Dawn. Alors, la seule description qui, moi, m'est venue, c'est que si Silent Hill rencontrait Dead Space dans une allée sombre.
Avec un scaphandre.
Avec un scaphandre, bah, d'où Dead Space, en fait, où faut quand même écraser les mecs, mais t'as une atmosphère un peu plus horreur psychologique, au sens où les choses, la réalité a l'air de t'échapper un peu. Ça a
Ouais,
pas
j'ai
l'air
cru
d'être.
comprendre qu'il y avait genre un merdier temporel, mais qui aboutissait systématiquement à une daube un peu crapwerk.
C'est cette phrase par nulle part, mais c'est
Non, mais
parfait.
tu vois, The Thing de Carpenter, mais avec du voyage dans le temps, quoi.
Ouais, bon, bref. Je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, c'est sorti le 5 septembre, c'est sorti un peu partout.
Alors ça vaut 70 balles.
Ouais.
Après je sais.
C'est ça. C'est une game key card, donc c'est non. Enfin, en ce qui me concerne, ce sera éventuellement en super promo un peu plus tard, ou peut-être sur PC, mais c'est vrai que là, sur Nintendo Switch 2, ça. Voilà. Les retours que j'ai vus et lus ont l'air de dire, voilà, quand t'aimes bien les jeux d'horreur, bah, ça marche bien. Donc, voilà.
OK.
Je le dis. Les retours qu'on a eus, c'est ça marche plutôt pas trop mal. On a eu, alors, là ça va devenir très compliqué parce qu'on a Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, qui est un remake d'un Final Fantasy Tactics, mais j'ai pas réussi à trouver lequel. Je sais que
Bah,
c'est un remake.
c'est The War of the Lion, non?
Ben ouais, mais du coup c'est le 2, le 1.
Non, pour moi c'est le 1, c'est celui qui vient juste après Tactics Ogre.
Encore? Parce que celui-là, en fait, il y a un remake tous les 50, celui-là. C'est
Alors,
un enfer.
là pour le coup, il semble que c'est la première fois où il sort avec une trad française.
Ah! Sur PlayStation, il n'était pas sorti avec une trad française.
Je crois que non, si je dis
Oh
pas de
mon
grosses
dieu.
conneries.
Alors c'est là que j'aurais bien aimé avoir un Antix, parce que je sais que Final Fantasy Tactics, c'est un jeu qu'il connaît assez bien, et donc ça, il aurait tout de suite repéré le truc. Moi, c'est vrai que j'ai cherché l'info. Je vais pas dire désespérément, parce que j'ai pas non plus cherché très 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 longtemps, mais je
Oui, puis on
n'arrivais
vit
pas à
très bien
trouver.
sans cette info, tu sais.
Oui, c'est ça.
Ça
Ça c'est un petit peu comme Final Fantasy XIII 3, tu vois, on vit très bien ça.
Ouais, ça m'échappe. Bref, bon, Final Fantasy Tactics, c'est quand même une belle référence du tactical RPG, donc ça fait plaisir. Maintenant, encore une fois, j'ai l'impression que Final Fantasy Tactics, on a un remake tous les 5 ans, quoi. Alors, je sais que le jeu est bon.
Il y a eu cette mode du remake des vieux Tactics, mais le FF Tactics, il me semble qu'il y avait un petit moment qu'on l'avait pas vu passer, quoi.
Bref, peut-être que je me trompe. Je voilà. On va clore ici, je veux pas dire de très grosses conneries, en tout cas pas trop de très grosses conneries.
C'est wishlist, hein, pour ma part.
Ah oui. Ah. Final Fantasy Tactics. Oui.
Oh. Ah oui, enfin tout ce qui est Tactics, oui, ambiance civilise, donc ambiance très sérieuse, très adulte, avec ses thèmes à la Game of Thrones, là ça me parle, quoi.
Toi t'es dedans, t'es à fond, tu y crois, ça te parle. C'est vrai qu'en même temps, je dois bien reconnaître que j'ai beaucoup apprécié. Tu vois, genre Triangle Stratégie, c'est vraiment été une bonne, bon kiff.
C'est ça.
Je me dis que si effectivement t'es dans le même état d'esprit, ça peut être sympa. On a eu Octopath Traveler 0. Alors celui-là, c'est celui qu'on n'attendait pas.
Clairement.
C'est-à-dire qu'il est sorti un peu de nulle part. Donc on rappelle, on a eu Octopath Traveler 1. Octopath Traveler 1, qui était donc, comme son nom ne l'indique pas. C'était 8 personnages, hein, Octo, O-C-T-O-P-A-T-H, ils ont tous un petit nom différent, et en fait, si je ne dis pas de bêtises, alors moi je l'ai pas fait Octopath Traveler, j'ai le 2, mais je l'ai pas encore déballé, et il y a une suite, et donc à chaque fois c'est 8 personnages qui se croisent, dont les destins se croisent, alors dans le 1 c'était ouf, le croisement était un peu...
Ça, ils se croisent, mais les autres te suivent sans pour rien dire, quoi.
C'était Chihuahua Pitbull comme croisement, tu vois, c'est pas ouf. Tu sentais que ça allait pas le faire. Et en fait, c'était plus 8 histoires indépendantes avec des petits morceaux qui se mettaient ensemble. Octopath Traveler 2, ça avait l'air beaucoup mieux sur cette partie histoire, de ce que j'en ai compris.
Alors, je l'ai pas torché, ça se croise un peu plus. Je sais que le 2, la BO est une tuerie absolue. Et les histoires restent indépendantes. Et quand ils se croisent, il y a un peu plus quelques échanges scénarisés. Ça reste pas foufou non plus.
Voilà. Et donc là, effectivement, c'est une préquelle. Alors, on nous dit dans le chat vivement Octopath Traveler moins 1. C'est vrai que la pré-préquelle, on l'a pas encore faite, celle-là. Mais
quelqu'un le fera. Jean, t'as raison. C'est le remake du jeu mobile dont j'ai appris l'existence à l'occasion.
Ah putain, il y a un jeu mobile. Oh merde.
Ouais. Alors, le jeu mobile, a priori, est un gacha à con. Et là, donc, bon, bah voilà, il y a ce côté freemium qui n'est plus là. Et de ce que j'ai compris sur le jeu mobile, il y a une grosse partie du jeu qui consiste à reconstruire un village, de façon Bravely Default. Et là-bas, ça fait partie du voyage, hein, c'est dans le remake.
C'est ça, et là on nous annonce quelques 30 personnages à recruter, alors je suppose pas tous en même temps, sinon ça va être le bordel, mais du coup il y a peut-être une trentaine de petites histoires à suivre, ou des histoires qui sont légèrement modifiées en fonction des personnages qu'on a pris. Bon, comme d'habitude, on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça, ça sort avant la fin de l'année, je crois. Je vais pas dire de conneries. J'ai pas noté toutes les dates dans le conducteur, voilà, vous voyez, c'est pas pro ça par exemple. Voilà, ça faut pas faire ça. Si vous faites ça, vous ne faites pas ça. 4 décembre 2025, c'est ça. Donc ça sort en toute fin d'année sur Nintendo Switch 1 et 2. Et du coup, ce sera une Game Key Card sur Nintendo Switch 2, donc achetez-le sur Nintendo Switch 1. Palam papam. Quelques petites nouvelles. Alors pareil, dans le Indie World, il y avait beaucoup beaucoup de trucs, donc on peut pas tout citer. J'ai gardé vraiment ce qui était le plus important et qu'on n'a pas revu depuis, ou qu'on a revu depuis, mais un peu différemment. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc si je n'ai pas cité votre jeu préféré de l'Indie World ou du Partner Showcase, c'est parce que c'était pas un gros truc ou une grosse annonce, c'est des choses auxquelles on s'attendait, qu'on connaissait déjà, ou on découvrira plus tard, ce sera plus intéressant d'en parler plus tard plutôt que de l'évoquer maintenant. J'en ai retenu deux essentiellement dans les plus petits trucs, on va dire. Il y a Mina the Hollower, par les créateurs de Shovel Knight, qui a l'air très chouette. C'est un jeu avec une petite souris, une petite souris magicienne, qui fait plein de trucs, ça a de la plateforme, ça a l'air super mignon. Et ça fait très très plaisir de voir que les créateurs de Shovel Knight sont enfin sortis un peu de Shovel Knight, même si ça reste du 8 bits pixel machin, mais ils essayent de faire un peu autre chose. C'est vrai que là, ça fait quand même plus de 10 ans que Shovel Knight est sorti.
Déjà, bordel.
C'est-à-dire 2014, si je dis pas de bêtises, 2013 même, je crois. Donc voilà.
C'était vachement bien Shovel Knight. Ils ont comment dire, avec le Treasure Box, Treasure
ouais,
Box.
Ouais, j'ai pas fait celui-là.
Bah en fait c'est juste Shovel Knight plus Spectre plus machin. En fait c'est tous les DLC qui sont sortis de Shovel Knight en un seul jeu.
Okay.
Donc c'est très cool, hein. Ça fait vraiment un truc très très complet. Le premier étant, tu peux juste rejouer au jeu en tant que Spectre Knight, donc avec des trucs un peu différents, et puis t'en as d'autres où ça a vraiment des extensions avec des nouveaux niveaux et tout. Donc c'est
2014, dit Zergy. C'est ça.
Donc effectivement, c'est bien. Ils ont fait plein de pognon, je suis très content pour eux. Yacht Club Game, hein. Donc maintenant, il était temps de faire autre chose, ils font autre chose, et ça a l'air très cool. Et le deuxième qui a un petit peu retenu mon attention, parce que c'est Devolver Digital, et en général, Devolver, il y a toujours des trucs...
craqués
chelous. Mais intéressant, c'est-à-dire qu'on est rarement, on est souvent pris au dépourvu, mais avec des trucs intéressants. C'est Ball X Pit, qui est une espèce de casse-brique avec des fantômes. Ça a l'air ultra chelou. Moi, ça me parle beaucoup. Je sais pas comment ça va se débrouiller, mais ça a vraiment l'air très sympa. Voilà, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir le truc.
Oui, si je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui. Bah, comme d'hab, curieux.
C'est ça. Curieux, c'est vraiment le terme, c'est-à-dire le truc que tu le vois, tu te dis, ok, c'est un casse-brique, mais attends, il y a des trucs chelous qui se passent, il y a l'air d'avoir des machins avec des pouvoirs, ça a l'air... Voilà, tout d'un coup, Devolver se met à faire du casse-brique, moi, le jour où Devolver se met à faire du PQ, ça m'intéresse, hein. Je me dis, il y a un twist, tu vas t'essuyer, et en fait, ça essuiera rien du tout, ou quelque chose comme ça, enfin bref, il va se passer des choses, quoi. Voilà, je te propose de faire une première petite pause musicale, alors elle est un peu impromptue, hein, parce qu'en fait, elle n'était pas dans le conducteur, parce que je suis pas du tout à l'arrache. Absolument pas vrai. Je vous interdis de penser ça. D'ailleurs, je suis pas du tout en train de mettre la musique dans la playlist. C'est vraiment absolument pas ce que je suis en train de faire. Bref, on va écouter un petit morceau de la bande originale de Mario Kart.
Tu peux juste dire que t'es en train de te curer le blaire, c'est de la radio. Hein.
Je peux dire ce que je veux. Bref. Alors, la bande originale de Mario Kart World, c'est un bordel.
C'est putain de... Bah allez, je le lâche tout de suite, c'est putain de décevant qu'il n'y ait pas un jukebox dans ce jeu, bordel.
Exactement, il y a quasiment 300 morceaux entre les originaux, les remixes, la musique quand c'est le replay qui est pas tout à fait la même, les musiques qui changent de manière dynamique, t'as des trucs de ouf partout, donc c'est très compliqué d'arriver à faire une sélection. Je le dis tout de suite, c'est très 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 compliqué. Je pense qu'il y a pas loin d'une centaine d'heures de musique, enfin je pourrais dire des conneries, mais
ah, je peux bien te croire, mais c'est
hallucinant. Une centaine de morceaux sans problème, donc pas une centaine d'heures, du coup beaucoup moins, mais je veux dire, on peut vraiment lancer la BO de Mario Kart World, bosser toute la journée, et tu l'as pas fini, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Et avec des morceaux très très bien. Donc du coup, j'ai dû réduire la sélection à des trucs... Enfin voilà, j'ai dû vraiment faire des choix.
Ça t'a donc, pris 20 heures.
On a pris des morceaux plus courts, plus sympas, plus réduits. J'ai pris des morceaux qui popent un peu, parce que c'est rigolo. Donc là, c'est Crown City. C'est donc... la musique de la ville qui est plus au nord de la carte. Voilà, ça dure un tout petit peu moins de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et donc, alors, Nintendo Direct, deuxième partie avec celui du 12 septembre. Tout ce qu'on n'a pas vu avant celui du 12 septembre, mais qui était quand même dans celui du 12 septembre. C'est pas clair ce que je dis. C'est pas
grave. Précédemment Direct. Dans le futur.
Précédently dans le turfu. On est parti. Alors,
Ça a ouvert ce Nintendo Direct du 12 septembre avec un truc qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, c'est Super Mario Galaxy, le film, qui est donc la suite de Super Mario Bros. Le film, et c'est toujours par Filmation et Nintendo. Ça sort l'année prochaine au mois d'avril, si j'ai pas de
Ouais,
bêtises.
c'est ça. Pas mal,
Ça a
non?
l'air.
C'est français.
C'est français, monsieur. Ça a l'air très chouette. On a le retour des Lumas suicidaires, qui est pas
Putain,
suicidaire en
j'espère,
l'occurrence, mais j'espère
j'espère.
qu'on l'aura parce que c'est vraiment partie des petites perles. Ça a l'air très cool. La musique était juste oufissime.
Oui, c'est le même compositeur qui revient, c'est chouette.
Ouais, parce que alors la musique Super Mario Bros. Le film, même si, enfin, même si on n'a pas aimé le film, et je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas aimé le film, je peux entendre ça, mais la musique était juste full. C'est un truc qui te colle le smile de A à Z. C'est
Brian
vraiment.
Tyler, j'ai retrouvé son nom.
Voilà. Et là, il y a des thèmes inspirés de Mario Galaxy, et Mario Galaxy, t'as quand même une BO de fou furieux.
Ah, c'est stylé. Je viens de chercher Mario film compositeur et Google me sort un petit bloc que je peux taper pour sortir des pièces.
Ah ben voilà, ben voilà. Ça a l'air très très bien. Dans la foulée, on a eu Super Mario Galaxy 1 plus 2
Enfin
qui
le 2.
ressortent sur Nintendo. Alors Switch 1 ou Switch 2 d'ailleurs, je ne
Les
sais
deux.
plus
Alors,
les deux.
c'est une version Switch 1 avec un upgrade gratuit pour 4K, HDR, mon cul sur la commode sur la 2.
D'accord, donc c'est pas une Switch 2 compatible Switch 1. C'est
Non.
une Switch 1 compatible Switch 2.
C'est ça.
C'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave.
Est-ce que Mario doit sauver la princesse? Oui, mais pas que. Sauver la galaxie.
Sauver, oui, le monde. La galaxie, il doit sauver tout le monde. Je ne sais pas de qui d'ailleurs, on n'a pas eu d'informations énormément sur l'ennemi. En fait, ça a vraiment été juste une bande-annonce. Genre, bah, il y a un film. On espère que vous
Ouais.
viendrez le voir, c'est cool, on a bossé dessus, c'était marrant. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a eu. Alors, pour Mario Galaxy 1 plus 2, on a quand même eu un truc intéressant. Alors, Mario Galaxy 1, c'est pas la première fois qu'il ressort. Parce qu'il est ressorti dans la collection Super Mario 3D All-Stars.
3D All-Star, yep.
Il était ressorti sur Wii. Ah, sur Wii, sur comment dire. La version chinoise de la Switch, là, qui s'appelait je sais plus comment,
À
non,
la
le truc
Cube,
Nvidia Shield, qui
Ah ouais?
avait des jeux Nintendo, oui,
Ok.
Nvidia Shield en Chine, donc il est déjà ressorti. Il était ressorti, me semble-t-il, juste comme ça, je sais plus où. Ah, c'est peut-être le seul version dont je me souviens, mais le 2 jusqu'à présent n'était jamais ressorti. C'est la première fois qu'il est redisponible. Bon, Super Mario Galaxy, c'est alors, on en a déjà parlé quand on a parlé des 15 ans de la Wii.
Si je dirais rien, je suis pas objectif, c'est un jeu de cœur.
Mario Galaxy, moi, c'est un de mes jeux préférés de la Wii et c'est un de mes jeux préférés tout court. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Pour un Mario 2D, c'est
Au
extraordinaire.
sens, oui, au sens, au
Voilà.
niveau drapeau de fin, oui.
C'est ça, oui. Puis en plus, c'est une ligne droite, hein, malgré tout. Pas beaucoup de distractions. Je ne sais pas si on en reparlera, peut-être qu'on fera un petit bout d'émission dessus, mais on en avait déjà parlé dans notre émission sur la Wii. Donc. Voilà. On a
C'est, oui,
eu.
c'est, pourquoi ce jeu est un chef-d'œuvre?
Bah, on pourrait faire ça en vrai. Hein. Ah, le 2 est ressorti sur console virtuelle Wii U, c'est ça. Voilà. Donc, ah,
Ah bah
pardon, du coup, le 2
je
était
l'avais
aussi
loupé.
ressorti.
Je l'avais loupé.
Parce que pour
Ok.
moi, Mario Galaxy 1 était ressorti, mais le 2 non. En fait, souvent, le 2, il est. J'ai l'impression que chez Nintendo, le 2, ils considèrent que c'est presque une espèce de DLC du 1.
Bah, dans les faits, c'est un peu les idées soit abandonnées,
Ouais, c'est ça.
soit pas eu le temps, on verra plus tard.
Ça ressemble
Et
effectivement à une
d'ailleurs, voilà,
espèce de compile de phase B, quoi.
cette espèce de scénario, alors complètement bonus, mais touchant du premier. Je parle du bouquin
Oui, tout
d'harmonie
à fait.
qu'on peut lire dans l'observatoire, pardon. Dans le 2, toute cette partie-là était complètement absente, et là, a priori, ils ont bouché ce trou, si on pouvait y voir un trou, quoi.
Ouais, il y a d'ailleurs un petit bonus que tu essaies de précommander qui est le vrai livre interactif
Ouais,
de.
ça c'est chouette, ça.
Ça a
Ça
l'air très
c'est.
très chouette.
Mais je pense que n'importe quel fan du Petit Prince veut ce bouquin, quoi.
Oui, surtout que les illustrations sont très jolies. On apprend quand même des choses un petit peu rigolotes, notamment le fait que, bon, à un moment, Mario il l'a quand même bouillave. Hein. Voilà. Mais dans le turfu du passé,
Voilà, c'est un merdier.
on y reviendra. On a tenté une timeline Donkey Kong il y a quelques temps, là ça a été. Voilà, un jour il faudra qu'on y revienne.
Quand on se fout de la gueule de Marvel ou quand t'as plus d'idées, tu fous un voyage dans le temps, mais on n'en est pas loin.
C'est à peu près ça quoi. Bref, on a eu Mario Tennis Fever, aka la version était-ce vraiment nécessaire?
Tu vois, j'aurais sorti ça pendant le confinement, j'aurais crevé de rire. Fever.
Ouais, moi ce qui m'ennuie c'est que finalement il y a quelques nouveautés, donc il y a toujours un mode aventure. exactement comme dans le précédent Mario Tennis, où il y avait un mode aventure qui était très réussi, qui était très rigolo. Alors ça consiste à enchaîner des matchs de tennis, hein, faut pas aller chercher très très loin non plus, mais il y a une petite carte, il y a un petit machin, il y a des petites scénettes, c'est fun, ça occupe une heure et demie ou deux, et c'est pas ce qu'on... Voilà. Peut-être que là, ce sera un peu plus étoffé. La grosse nouveauté, c'est surtout qu'on a des raquettes spéciales.
Non, putain, il y a des raquettes pour jouer au tennis.
Oui, il y a des raquettes pour jouer au tennis, mais attention, c'est des raquettes qui font des trucs.
Elles sont possédées.
Elles ont des pouvoirs spéciaux, ça ressemble un peu à des pouvoirs de Mario Kart, genre t'as la raquette de feu, la raquette de glace, ou des conneries comme ça. Je ne sais pas... Enfin... Tu te rappelles cette réunion qui aurait pu être un mail ? Là, c'est un petit peu ce jeu qui aurait pu être un DLC. On est quand même...
À voir. Le précédent était très 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 bon. Je suis d'ailleurs complètement d'accord avec ton analyse d'époque qui disait que c'est un jeu de baston.
Oui.
Et alors, s'il garde la même formule en enrichissant 2-3 trucs, pourquoi pas ?
Voilà.
Ce qui m'embête, c'est que sur la précédente génération, ça aurait été un jeu à 40 balles, et là, non, quoi.
C'est ça, et puis en plus, les jeux de sport Mario, moi je trouve toujours ça bien, j'ai vraiment pas de soucis avec, mais le dernier Mario Tennis était bien, le dernier Mario Golf était pas ouf, là j'ai peur que ce Mario Tennis là soit pas ouf, tu vois, j'ai l'impression que maintenant c'est vraiment t'as 1 sur 2 où effectivement, on a un peu du mal à se renouveler, parce que ça reste du golf, ça reste du tennis, ça reste compliqué d'arriver à sortir une nouvelle formule de jeu ou un nouveau truc un peu fun, quoi.
J'ai pas vu, c'est Kaamelott encore sur le dev ?
Oui, a priori c'est toujours Kaamelott sur le dev.
Si on leur a laissé le temps, tout peut arriver. On peut être surpris, on peut être très agréablement surpris.
Bah, c'est-à-dire qu'a priori ils bossent pas sur Golden Sun, donc ouais, ils ont eu le temps.
C'est possible. On a Super Mario Wonder Nintendo Switch 2 édition. Donc Nintendo Switch 2 is the new Nintendo Switch 1.
Ressortez tout.
Put everything on Nintendo Switch 2.
Again.
Des nouveaux défis, des mini-jeux inédits, un nouveau niveau pour faire passer la pilule, mais ça reste juste une version améliorée de Super Mario Bros. Wonder. Alors, très bon jeu au demeurant, hein, donc
oui.
On n'a pas perdu au change. Bon, enfin, pas falloir faire ça tout le temps, monsieur Nintendo, hein, c'est compatible, on n'a pas besoin de ça. Voilà, ça nous intéresse, mais pas à ce point-là. On a eu Yoshi and the Mysterious Book, alors un nouveau Yoshi, qui a l'air ultra joli.
Oui, ce parti pris d'animation... Et il est merveilleux.
Cette espèce de crayonné, là, un petit peu, ça ressemble énormément à Super Mario World 2, où t'avais ce même truc avec du pastel. Vraiment, ça a l'air superbe. Donc
oui. Si vous connaissez Ernest et Célestine,
oui.
Ça y ressemble beaucoup dans ce côté crayonné, animation légèrement saccadée, où limite on voit les coups de feutre dans les décors. Très, 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 très chouette.
Ouais, il y a vraiment quelque chose là-dessus. L'histoire a l'air un peu convenue. Alors ça, c'est des niveaux en 2D, donc c'est vraiment... On revient à une formule par rapport au dernier Yoshi qui avait tenté des trucs un peu en 3D. Là, on revient à une formule plus en 2D. Apparemment, l'idée, c'est d'ouvrir les pages, d'essayer de comprendre ce qu'il y a sur les pages du bouquin, et puis chaque interprétation est un petit niveau. Alors, j'ai peur de l'effet mini-jeu, c'est-à-dire que ce soit vraiment des micro-niveaux.
Je sais pas, peut-être mais un mélange avec des micro-niveaux, des plus longs niveaux, des chasses au trésor, en fait, tu claquais tellement de trucs là-dedans.
Ils peuvent faire pas mal de trucs, et c'est vrai qu'en général, les Yoshi, ça marche plutôt bien, donc les derniers étaient très bien. À chaque fois, il y avait des idées intéressantes, un parti pris graphique intéressant, un univers intéressant.
C'est un peu la marque de fabrique de la franchise, du coup, à chaque fois, tenter le parti pris graphique différent.
Et puis de tenter, effectivement, des univers toujours mignons, mais voilà, t'avais le scrapbook, t'avais la laine, t'avais... Enfin voilà, il y a eu un petit échange avec Kirby à un moment où il y avait une tentative comme ça, on a eu notamment le Kirby sur Wii, dont je me souviens plus.
Ah. Celui en laine.
Oui, c'est ça.
Au fil de l'aventure, une connerie comme ça.
Au fil de l'aventure. Voilà. Et pendant un moment, il y a Kirby qui avait tenté de faire des petits trucs comme ça, puis finalement, on est revenu à des formules un peu plus traditionnelles, j'allais dire. Mais voilà, donc Yoshi, ça fait toujours plaisir. On attend ça avec impatience, parce que c'est vrai que les dernières étaient bien, vraiment. C'était des bons jeux à chaque fois. On est rarement déçu par un Yoshi. Alors, on a eu un Final Fantasy VII Remake Intergrade. J'ai rien compris.
Alors,
il faut que tu expliques, parce que moi, j'ai rien compris.
Donc, FF7 est sorti en 97. Tu as...
C'est bon. Voilà, donc c'est bon, c'est fini, c'est bon. Merci. Non, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. On a perdu Mecton.
Ah.
Non, mais je crois qu'on a perdu Mecton. Mon Dieu. Quel enfer. Ah. Oui, Mecton nous a officiellement quittés, donc vous n'aurez pas l'explication sur Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ça a l'air grave. Je ne sais pas.
Voilà. Heureux. Voilà. Oui. Donc je disais, 97.
C'est ça, il y a eu Final Fantasy, ton micro, il est donc PC, il a dit non. Non.
Ouais. Donc il est sorti en 97. Sorti en 97, celui-là, c'est bon, tu l'as. 20 ans après, on se dit, tiens, si on faisait un remake du jeu, puis pour maximiser le profit, on va le péter en 3. La première partie, on l'appellerait remake. Et pour faire un petit billet en plus, on sortirait un DLC. Et ça, on l'appellerait Intergrade.
Putain. Ah, c'est... j'ai mal à la tête.
Et après, la deuxième partie, on l'appellerait Rebirth. Mais ça, ça viendra plus tard. Et donc, du coup, là, ce qui sort, c'est FF7 Remake Intergrade. C'est-à-dire la première partie du remake avec le DLC inclus.
Donc, du coup, la deuxième partie n'est pas encore sortie.
Non, mais elle est déjà confirmée sur Switch 2.
D'accord.
Ouais. La deuxième partie est sortie sur console inférieure.
Très bien. C'est console non portative. Je pense que c'est faut avoir un langage positif quand tu fais ça.
Ouais, ok. J'ai oublié que maintenant c'est l'inclusion, tout ça.
C'est important de pas traiter la PS5 de PS5. Elle va se sentir un peu vexée derrière.
Oui, puis il faut dire qu'elle est sortie, sinon elle va mal le prendre.
Ouais, non mais alors que bon, on n'est pas dupe. Hein, je veux dire. Bref, personne n'a jamais vu une PS5 en magasin.
Bah non.
On a eu Hades 2. Alors moi personnellement, Hades 2, j'en ai rien à foutre, comme Hades 1. Rien à foutre.
T'es un vilain. C'est très très bien Hades.
Je suis un gros vilain. Je sais qu'Hades c'est très bien. C'était une suite très attendue. C'est un peu comme Silksong. Ça a un peu été une espèce de shadow drop là, parce que finalement.
Ouais. Alors oui, pardon. Zergy, évidemment, et le FF7, ce sera une game keycard ou au minimum un gros download parce que le jeu est annoncé pour faire 90 gigas. Donc oui. Même sur une cartouche de 64, ça ne tient pas.
Parce que mathématiquement, 90, c'est plus grand que 64, même pour les très grandes valeurs de 64. Il faut le savoir.
T'en déconnes, Jamy.
C'est important. Bref, donc Hades 2, toujours du roguelike, toujours en vue isométrique, toujours avec cette histoire de run, avec des armes qui changent, avec des pouvoirs qui changent, et ainsi de suite. Ça a
l'air... ça, et la particularité d'Hades, c'était un roguelike où le fait de crever au bout de ta run faisait partie du scénario.
Tout à fait, où tu pouvais recroiser des personnages, et en fait c'était prévu que tu meurs plusieurs fois pour pouvoir débloquer justement des branches de scénario, des discussions, des machins, des trucs, donc c'était intelligemment fait. Mm. Voilà. C'est, je précise, le seul roguelike sur lequel j'ai tenu plus de 3 heures, ce qui est quand même un bel exploit.
Comme quoi, c'était pas trop mal.
Je l'ai jamais fini, mais ça m'a vite cassé les couilles aussi, hein. on est toujours dans le même problème, hein. Mais refermons ça. Alors... on a eu un Kirby Air Riders. Je précise qu'on aura de nouveau un Nintendo Direct sur Kirby Air Riders.
Ça, c'est la marque Sakurai. Je suis sûr que dans le deuxième, il va nous expliquer comment il a codé le truc.
Je suis sûr que dans le deuxième, il va nous annoncer qu'il y a un troisième bouton. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le gag...
Pour mettre en pause.
Kirby Air Ride, c'est un jeu de course qui est resté un peu célèbre sur GameCube parce que justement, il n'utilisait qu'un seul bouton. En gros, on avait une espèce de bouton turbo, drift... T'avais un bouton à tout faire, quoi. C'est un peu Sakurai. Il essaye vraiment de faire une espèce de design très minimaliste et qui est assez célèbre pour deux choses. Donc ça et le mode City Trial. Et là, bah, il y a le retour du mode City Trial, qui est un truc vachement bien. Donc le mode City Trial, ça ressemble plus ou moins à une espèce de... C'est un peu, je trouve, l'ancêtre du Battle Royale.
Du roguelike ? Non, pardon.
Non. Du roguelike, pas de...
C'est juste pour te faire chier.
Ok. C'est tu débrouilles, t'atterris dans un coin de la map un peu au hasard, faut te démerder pour aller ramasser des trucs, puis après tu vas te mettre sur la gueule, quoi. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Il y a des amiibo qui coûtent une couille.
Ouais, j'ai annoncé. Vu ça juste avant l'émission. 45 balles l'amiibo.
Alors, tu peux changer le rider.
C'est ça, donc c'est un amiibo qui est en deux parties. Il y en a deux, ce qui fait un total de 4 combinaisons.
Voilà. C'est un. En fait, ça ressemble au truc d'Ubisoft là où tu sais, tu pouvais mettre des.
Ah,
des les. Starlink.
C'est, voilà. Starlink. Skylander, je sais plus. Non, Starlink. Ouais.
Starlink, non, c'est Starlink. Bref. Donc ça a l'air cool, on n'en a pas vu énormément pour l'instant, on a vu 2-3 bricoles, voilà, quelques courses, quelques machins, on sait qu'il va y avoir un retour d'un mode City Trial un peu plus grand, un peu plus ci, un peu plus mi, il va y avoir du jeu en ligne, il va y avoir des choses comme ça. C'est Sakurai.
Putain, à quoi il sert le deuxième bouton déjà ?
Je sais pas. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Comme on aura un direct consacré, je pense qu'effectivement, ouais, on nous a distribué quelques petites miettes pour nous mettre en appétit, mais que le vrai plat de résistance arrivera avec ce direct-là, puis évidemment avec le jeu. Je crois que c'est pour la fin de l'année aussi. Ça va arriver assez vite, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. On a eu un Dragon Quest Reimagine. Alors tout d'un coup, on n'a plus d'HD 2D, on a de la 3D super propre. Et on continue finalement, ouais, les remakes, ouais, de Dragon, ouais, Quest. Hein.
Oui, tout à fait. Donc le 7, ce coup-ci.
Alors, c'est pas celui qui était sorti sur DS ?
Non, ça s'est arrêté au 6, si je dis pas de conneries. Je peux dire une énorme connerie. 4, 5, 6 DS. Non, peut-être 7, 8, 3DS. Bref, ça se confirmerait, mais je préfère passer pour un con.
C'est ça. On avait des remakes un peu minimaux. Là, ça a l'air d'être un gros remake. Hein. C'est vraiment, ils ont vraiment refait l'intégralité du jeu. C'est vrai qu'on a eu les Dragon Quest 1, 2, 3, 4,
alors,
5.
Le 3 est sorti récemment.
C'est ça. Un, qui était 2, de la
HD2D. HD2D. 1, 2, c'est le mois prochain, si je dis pas de conneries.
HD2D aussi.
Ouais. 4, 5, 6, c'était sur DS, ça c'est sûr.
Donc ceux-là finiront forcément par être refaits à un moment ou à un autre.
Le 8, 3DS, j'en suis certain. Le 7, je pense aussi, du coup.
Voilà. En tout cas, ça a l'air très joli. On avait parlé de Dragon Quest 3. On avait fait une émission qui était consacrée, d'ailleurs, à Dragon Quest 3,
ouais,
si je dis pas de bêtises.
Ouais, ouais, ouais.
Je crois que 1 plus 2, on l'avait pas fait parce que, justement, le jeu n'était pas sorti. Ou alors, on l'a fait pour je sais plus quelle raison.
Non, il n'est pas encore sorti. Le mois prochain.
C'est ça. Donc, peut-être qu'on refera un truc là-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir, je suppose, aux fans de Dracoué. La musique est juste géniale, c'est comme d'habitude. Hein. Si on n'aime pas le jeu, on aime au moins la musique, et ça fait quand même plaisir. On a eu une annonce extraordinaire. Un truc, ouais, que seul Nintendo peut faire, c'est vraiment... Et alors, ça a coïncidé avec un événement tout à fait rigolo. Donc, Nintendo a annoncé le Virtual Boy Nintendo Switch Online. Donc,
tiens, j'aurais 12, une question.
10 ou 12 jeux Virtual Boy, je crois qu'ils vont être disponibles.
Alors justement, c'est ma question. C'est 14. Et est-ce que c'est pas l'intégralité du parc ?
Non, il y a 37 et quelques jeux sur Virtual Boy. Et oui, monsieur. Voilà. Dont des jeux qui sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Hein. Je veux dire, il y a des trucs quasiment impossibles à trouver. Là, la sélection de 14, elle sera pas disponible, je crois, à la sortie. Ça va sortir au fur et à mesure. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans le même temps, la communauté a sorti un émulateur pour 3DS. Virtual Boy qui marche super bien, qui est gratuit. Donc voilà, si votre 3DS est piraté, vous pouvez en profiter. Là, ce qui est très très bizarre, c'est que en fait, on ne pourra pas profiter des jeux Virtual Boy Nintendo Switch Online si on n'a pas l'accessoire en plastique de merde.
Alors, ou en carton.
Non, il est en plastique a priori.
Oui, alors, mais il y a la version carton.
Non, t'es sérieux ?
Ouais, oui, il y a la version. C'est juste à la fin de l'annonce. Donc, toi, tu parles de la réplique du Virtual Boy en plastoc avec son petit socle pour le poser sur une table, oui, et se péter le dos, là, dans laquelle on peut insérer une Switch 1 ou une Switch 2. Ça, c'est plutôt cool. Mais comme j'imagine que ce truc-là va coûter une couillasse, il y a une version carton, façon Google Cardboard, je sais pas si vous vous rappelez de ces trucs.
Ou façon les lunettes 3D. Ah, je me demande si ça marcherait avec les lunettes 3D de la...
Du labo.
Du labo.
Alors, ouais, c'est possible. Pour la 2, t'es bien baisé.
Ah, pour la 2, t'es niqué, c'est trop petit. Mais ok. Donc je pensais qu'il y avait que l'accessoire en plastique, moi, pas le truc en carton.
Alors, 80 balles,
le dit, voilà, le bidule en plastique, c'est parfait.
Ah, c'est le prix d'une manette, quoi.
C'est ça. Et tout ça pour avoir une scoliose à la fin. Hein, parce que
c'est
faut
ça.
Vraiment...
Ou si t'es un gros niqué de la tête, tu te passes de l'accessoire et tu joues collé à ton écran.
C'est en louchant. C'est essayant de faire les fameuses images magiques, là. Je pense que c'est une bonne idée, c'est ça qu'il faut faire. Bref, j'hésite entre le coup de génie extraordinaire et le foutage de gueule intégral, en fait. C'est quelque part entre les deux.
Pour le coup, j'ai jamais touché un Virtual Boy et ce côté historique me... quelque part me fait plaisir. Est-ce que ça vaut 80 balles ? Je suis pas sûr.
C'est compliqué quand même. C'est compliqué à justifier. On disait tout à l'heure que effectivement les jeux Switch 2 qui sont quand même passés à 70 balles de base, alors plutôt 80 quand c'est des gros jeux en théorie, mais en fait en magasin on arrive à les toucher à 70, ça fait quand même mal au budget.
C'est vrai que la sortir 80 balles pour un accessoire qu'on va peut-être utiliser quelques fois par curiosité, tu vois, pour juste la curiosité du jeu Virtual Boy, je trouve que c'est un peu raide. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui... Alors, du coup, la version carton, c'est peut-être pas si con que ça, parce que ça permettrait à un moindre coût de pouvoir le faire. Si ça coûte 5-10 balles, pourquoi pas, quoi, mais...
Que tu es naïf. Je me disais, tu vois, dans ma tête, 20 balles le carton, ce serait la limite, du coup, ce sera 40.
C'était un bâtard. T'es un bâtard, mais t'as peut-être raison. Bref, on a eu un Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Alors, c'est encore un remake de Fatal Frame. Fatal Frame, c'est pareil, il y a à peu près tous les jeux qui ont eu des remakes maintenant.
Project Zero pour nos amis francophones.
Tout à fait. Oui, pardon, excusez-moi.
Logique.
Alors, du Project coup, Zero, Fatal logique. Frame 2 n'est pas Project Zero 2, faut le savoir.
Oh. Parce que,
il y a un bordel de numérotation aussi. Par contre, je sais plus lequel c'est, parce que j'ai pas fait mes devoirs. Voilà. Mais en tout cas, c'est cool. Les remakes de Project Zero, ça marche plutôt pas mal. Alors là, c'est le remake de la version Wii qui, je crois, s'appelle Project Zero. Alors, lui, s'appelle peut-être Project Zero 2, mais c'est pas le même titre aux États-Unis. Enfin, c'est le bordel aussi. C'est pas grave. On a l'habitude, c'est pas dramatique. Sachez simplement que les remakes de Fatal Frame, généralement, sont plutôt bons. Ça marche plutôt pas mal. En général, quand il y a un remake de ces jeux-là, c'est souvent, on reprend l'idée de base du jeu d'origine, on reprend le décor du jeu d'origine, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont modifiées. Donc même quand on a fait le jeu d'origine, en fait, c'est intéressant d'aller se replonger dedans. Et surtout, c'est de l'horreur un peu plus... voilà, t'as pas vraiment d'armes pour te défendre, t'as juste l'appareil photo qui permet de tenir un peu à distance les fantômes, c'est des histoires d'horreur japonaise, donc il y a toujours des trucs un peu...
Ring, Grudge...
Ça marche vraiment bien.
Faut aimer le genre. Psy. C'est cool.
Voilà, c'est plutôt cool. Ça marche pas mal. Il y a des trucs un peu ridicules, je préfère prévenir, t'as toujours le côté... t'as toujours le DLC avec la meuf en bikini, quoi, parce que ça n'a aucun putain de sens, mais voilà, c'est là.
Donc, bah, c'est Tecmo. Hein.
C'est ça, ils peuvent pas s'empêcher de mettre de la jiggle physics partout, y compris sur les bougies. Enfin, je ne comprends pas le concept. Bref, mais c'est cool, voilà, je le retiens juste parce que, effectivement, Fatal Frame, en général, ça donne un bon truc.
Fatal Frame Musso.
Oh putain. Comment tu vas faire ça? La meuf, elle se trimballe avec un téléobjectif de 50 mètres avec lequel elle bastonne des fantômes.
Allez, ah, c'est
okay,
vendu.
Ça marche. Je peux pas faire ça, putain. On a eu donc une date de sortie officielle, on savait que c'était pour la fin de l'année. Metroid Prime 4 Beyond. Donc c'est le 4 décembre.
Bon, le 4
décembre. Mais surtout, on a eu la Harley Davidson.
Ouais.
Donc qu'est-ce qui se passe?
Il y a un mec, il a re-regardé Akira, il s'est dit que c'était cool, il allait en faire une arme.
Ça ressemble un peu aux motos de Extreme G, je trouve. C'est une moto très horizontale. On n'en a pas appris beaucoup plus, on a vu Samus débarquer sur une moto, on s'est dit « Waouh, c'est cool Samus sur une moto !» Mais en fait, on ne sait pas si ça va juste être utilisé pour des séquences pour passer d'une planète à l'autre, ou d'un endroit de la planète à l'autre, ou si ça va remplacer des ascenseurs, tu vois.
Alors, tu vois, ce que je te disais en off, c'est quelque part, j'espère, parce que s'ils font un espèce d'open world, machin, j'ai peur que ça pète le côté claustro, ce qui peut être très cool, hein, tenter quelque chose de complètement original, mais quand tu tentes quelque chose de nouveau, t'as toujours une crainte, quoi.
Voilà, là, je sais pas ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça va être pour des séquences un peu, entre guillemets, pas pré-calculées, mais... Tu vois, tu as une séquence de moto façon
Bayonetta, un peu sur rail.
Ouais, façon Bayonetta, façon putain. Ah bordel, le jeu où t'avais un truc au bout d'une laisse là où t'étais un policier de Platinum, merde.
Ah Astral Chain.
Astral Chain.
Ok.
Voilà. Donc j'ai l'impression que ça façon Astral Chain, tu vois, t'as genre une séquence de moto et en fait t'as un boss moto, t'as une séquence moto, mais c'est à peu près tout. Ce sera pas vraiment un composant essentiel du jeu.
Et espérons.
Je ne sais pas.
Oh, coucou Kerbix.
Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. On nous a annoncé le premier DLC de Donkey Kong Bananza.
Ouais.
Qui donc se place sur une île qui est l'île Donkey Kong Country de Donkey Kong. L'île Donkey Kong de Donkey Kong 64, mais refaite intégralement et remise au du jour. C'est à peu près le même layout, hein, c'est assez marrant, il n'y a pas tout. Mais apparemment, il y a quand même des gros morceaux qui se ressemblent. En tout cas, de ce que j'en ai vu, il y a des gros morceaux qui se ressemblent. Avec un truc, course aux émeraudes, où l'idée, c'est de casser des gros blocs d'émeraudes et d'en ramasser le plus possible. Voilà. Et l'idée, c'est de faire un gros jeu de scoring, en fait. à base de ça. Je ne sais pas ce que ça donne, je ne l'ai pas acheté le DLC.
Non plus.
Je ne sais pas si je l'achèterai. Mais Donkey Kong Bonanza, c'est très très cool, ce serait bien qu'on en parle. Je ne sais pas si on fera peut-être ça dans deux semaines, parce que c'est vrai que
c'est un des... c'est
vraiment
génial.
Très très bon jeu. Donc, ça fait plaisir. Et un DLC qui a l'air d'être tout à fait de qualité, avec quelques petites options supplémentaires, notamment le fait qu'on peut accumuler plus de thunes, pourquoi pas, plus de cristaux de banandium, parce que pourquoi pas non plus. Voilà, un jeu très chouette dont il faudra qu'on parle.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, Nintendo nous sort les deux mastodontes, tu vois, les trucs qu'on n'attendait pas. Enfin, il y en a un qu'on n'attendait vraiment pas. Resident Evil Requiem, alias Resident Evil 9.
Mm.
Celui-là, il était passé sous les radars de tout le monde, personne ne l'avait vu venir. Enfin, personne ne l'avait vu venir. On se doutait que ça arriverait, mais voilà. Accompagné de Resident Evil 7 et 8, qui sortiront sur Nintendo Switch 2.
Ouais.
Alors, on ne sait pas sous quelle forme pour l'instant. Est-ce que ce sera comme pour les Resident Evil... donc Rebirth 0 machin avec des cartouches un peu bizarres hybrides machin ou juste en démat, c'est possible aussi.
Je suis téléparé une cloud, mais ok.
Non, pas cloud, je pensais plus à le Resident Evil, je sais plus, alors 5, 6 c'est sorti sur Switch, mais en fait ça a jamais été disponible sur cartouche en fait. C'était,
c'est ça.
T'avais systématiquement soit un code téléchargement, soit tu y allais comme ça, donc pourquoi pas.
Alors, ouais, Sergi, tu dis ça, mais ce que je m'attendais plus à une sortie du remake du 2, 3, 4.
Oui, je suis d'accord.
Que au 7, 8, 9, quoi.
C'est ça. Ça me paraît assez bizarre parce que le 2, en vrai, en remake, ça l'aurait bien fait. Hein. Moi, j'étais assez chaud. Voilà, donc Resident Evil 9 Requiem, on n'a pas évidemment appris grand-chose sur l'histoire, on sait juste que ça reprend, apparemment le protagoniste principal s'appelle Grace Ashcroft, comme la propriétaire du premier manoir, parce qu'évidemment il y a toujours un truc avec les Ashcroft. C'est toujours à la première personne, hein, depuis 7-8, Capcom a l'air d'avoir trouvé ses marques là-dessus.
7 c'est sûr, alors je sais pas si c'est le 8 ou le 9 pour le coup, où il y a la possibilité de passer sur une caméra épaule. Peut-être le 9.
Peut-être. Peut-être. Parce que moi, il me semblait bien que le 7 et le 8, c'était du première personne.
Le 8, j'ai pas fait du tout. Le 7, pour le coup, c'était très très chouette. Cette ambiance massacre à la tronçonneuse, là, c'était...
Tout à fait. Il y avait bien malaisant. Bien claustro, en plus, parce qu'effectivement, dans une seule baraque, enfin, avec quelques dépendances, mais globalement, c'est quand même assez, assez claustro. Le 8 était, entre guillemets, alors, moins réussi. C'est vite fait à dire. C'est là où t'avais des loups-garous, t'étais dans une espèce de village, t'avais la grande dame.
Oui, c'est un peu plus horreur victorienne. Quoi.
Ouais, c'est ça. Puis t'avais des délires un peu bizarres aussi. T'avais quand même t'avais l'impression d'être face à un Megaman. C'est-à-dire que finalement, t'as un gros boss et puis t'as des petits boss qui gardent des petits morceaux. C'est un peu bizarre, je trouve, comme structure, mais voilà. Bon, là, voilà, on n'a pas appris grand-chose. On sait juste qu'effectivement, on va replonger dans un manoir avec une Ashcroft. On n'avait pas joué de personnage qui était lié au Ashcroft depuis, de mémoire, Resident Evil Véronique, Code Veronica, où tu avais les deux jumeaux Ashcroft. Donc c'est cool. On verra bien ce que ça donne. Je crois qu'on n'a pas de date de sortie.
Non.
Ça sort a priori sur toutes les plateformes. Hein. Ça a été annoncé sur Nintendo Switch 2 avant, mais ça va sortir partout.
C'est Capcom, hein. Même si c'est une exclue, 3 mois après, ça l'est.
Bonjour Resident Evil 4. Et enfin, le petit biscuit de fin de Nintendo Direct, Fire Emblem Fortune's Wave.
Ouais.
Donc, un nouveau Fire Emblem, un tout nouvel univers, des tout nouveaux personnages.
Alors, j'aurais une question. Vas-y, alors, termine.
Oui, des nouvelles créatures à chevaucher. C'est-à-dire que là, on n'a plus juste les trucs qui volent, les chevals qui volent et les chevals de par terre. Là, apparemment, il y a d'autres bestioles qu'on peut chevaucher. Des autruches, des lions, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura Rambi, il y aura l'autruche, il y aura Engarde, l'espadon, enfin j'espère.
Et un Yoshi,
je pense que c'est... Voilà, ça ce serait quand même bien. On est sur un style graphique très très proche de ce qui se fait dans 3 saisons, 4 maisons. Il y a des grosses bêtes, donc il y a le retour des grosses bêtes qu'on avait dans 3 maisons 4 saisons, d'ailleurs j'ai inversé, c'est bien. Il y a quelques éléments qui ont l'air d'être empruntés du précédent, la Pepsi Light. il est rouge et bleu, je suis désolé, moi ça, voilà.
Oui, non mais je suis tellement d'accord avec ça.
Et ça se passe pendant les JO de Paris. Voilà, moi c'est ça que j'ai retenu, j'ai pas compris le...
Oui, mais...
Oui.
Tu parles d'un nouvel univers. On est d'accord que cette petite séquence post-crédit laisse penser qu'il y a un lien avec les trois maisons.
J'ai la sensation qu'il y a un lien avec le Three Houses, mais en même temps, on n'a pas eu vent, tu vois, des royaumes, des Dolgard, de machin.
Y aurait-il un méta-univers Fire Emblem ?
Alors, est-ce que c'est le royaume d'à côté, genre, et qu'on va avoir des petits liens avec ? Pourquoi pas ? Non, mais
c'est possible.
Dans Fire Emblem, on a vu que y a quelques épisodes qui sont liés scénaristiquement, mais finalement, très souvent,
c'est le point de vue d'en face. Oui.
Un tout nouveau royaume avec deux factions ou trois factions qui se mettent sur la gueule, et puis c'est à peu près tout, quoi. On a quand même assez peu de liens scénaristiques entre les Fire Emblem. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, hein. Il y en a quelques-uns qui en ont. Mais généralement, ça se passe sur des temps très longs, et c'est souvent un univers un peu inédit, quoi. Fire Emblem Pepsi Light, c'était ça, hein.
Celui-là était... Oui. C'est blindé de clins d'œil dans tous les sens, mais...
T'as plein de clins d'œil,
c'était l'épisode d'anniversaire qui voulait ça.
Et puis, tu
parles de Path of Radiance et de...
Radiant Dawn.
Radiant
Dawn. Très liés. Mais c'est pareil sur GBA. Le premier sur GBA qui s'appelle juste Fire Emblem en Europe et le deuxième qui est The Secret Stone sont liés entre eux.
Mm.
Ils ont c'est l'un et la suite directe de l'autre et la suite directe. La suite directe est un bien grand mot. Mais voilà.
Oui.
Donc, encore une fois, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Hein. Ce qu'on a vu, c'est qu'en termes de gameplay, il y avait effectivement des bestioles différentes à chevaucher. Alors, est-ce que ça va donner des choses qui vont être tactiquement un peu intéressantes ? Est-ce qu'on va avoir des cavaliers qui vont pouvoir changer de monture ou de type de monture pour avoir des propriétés différentes ?
Alors, non, Kirby, c'est pas une connerie. C'est vraiment pendant les JO de Paris.
Ça commence pendant un tournoi, soi-disant, voilà. Il y a un tournoi où les mecs disent que le tournoi commence et tout. Il y a des médailles, ouais. Il y a des trucs. Ça a
c'est les JO de Paris, mais c'est pas la même timeline ni la même planète. C'est compliqué.
C'est ça. Mais globalement, c'est quand même les JO de Paris. Voilà, on fait ce qu'on peut. Alors, ça va, on peut rigoler un petit peu. Bref, ça conclut les Nintendo Direct. Je vous propose de faire une petite pause pour que nous on puisse souffler un peu et qu'on puisse parler de Mario Kart World. Ça va faire une grosse émission. Enfin, Mario Kart World, on a beaucoup de choses à dire, mais assez condensé en fait, je pense. Donc, on va y arriver. Bref, je vous propose un autre petit morceau de la bande originale de Mario Kart World. Il s'agit d'un morceau qui est plus ou moins un remake de ce qu'on avait comme circuit DS, c'est Airship Fortress. Donc on avait les fortresses volantes de Super Mario Bros. 3 qui avaient été faits comme un circuit dans Mario Kart DS et qu'on n'avait jamais revu depuis. Et là, c'est pas tout à fait le même niveau. Mais c'est la musique refaite mieux de ce niveau-là. Voilà. Bref, c'est un peu compliqué. Ça dure un tout petit peu moins de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc, Mario Kart World. Alors, on avait promis qu'on en parlait.
Ouais.
Ça fait 3 mois qu'il est sorti, donc on a
Ouais, on n'a pas dit quand.
Hein ?
On a promis qu'on en parlait, mais on n'a pas dit quand.
Exactement. On savait qu'on n'en parlerait pas au mois de juin, parce que c'était un peu court. Quand même, il nous restait genre une émission, il aurait fallu la caser quasiment début juillet. Enfin, c'était très compliqué pour tout le monde. Donc on a préféré faire ça à la rentrée et avoir un peu de recul dessus. Donc là on a quand même un certain recul, on l'a pas poncé mais on a quand même...
On a bien tapé dedans.
On a bien tapé dedans quoi. Et
Bon, il y a pas mal de choses à dire. On va essayer de se concentrer sur l'essentiel de cet épisode. Bon, Mario Kart restant Mario Kart, je pense que les bases sont connues d'un peu tout le monde. Il n'y a pas de...
Ouais, même s'il y a des ajustements dans tous les sens.
Voilà. Le gros truc que nous avons du Nintendo, c'était le Mario Kart Open World. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas plusieurs circuits disjoints, finalement. Il y a une seule et unique carte énorme dans laquelle il y a une espèce de gros blend en un seul et unique monde un peu cohérent de tout un tas d'ambiances différentes sur lequel il y a plein de routes qui passent. Et en fait, l'idée, c'est que les circuits vont emprunter ces routes-là. Alors, les circuits ou les descentes, parce qu'il y a beaucoup de descentes, on y reviendra, vont en fait se dessiner à l'intérieur de ces ce monde gigantesque. Voilà. Donc, on a une très grande carte. Ça ressemble beaucoup, je pense que j'avais déjà fait le comparatif, mais je le refais encore, c'est pas très très grave, au tout premier Burnout. Alors, Burnout, le premier sur GameCube, c'était le même principe, c'est-à-dire t'avais une carte gigantesque et en fait les courses que tu faisais dedans étaient simplement des routes qui étaient prises, pas au hasard, mais qui étaient prises à l'intérieur de ce monde gigantesque tel qu'il avait été modélisé. Donc c'est un peu le même concept. Voilà. Mais du coup, il y a un vrai mode open world de parcours libre.
Oui.
Et qui en fait te permet d'aller visiter tous les univers, toutes les ambiances, d'aller changer. T'as vraiment une vraie diversité visuelle, une vraie diversité sonore, c'est assez ouf. Donc tu peux aller te balader un peu partout.
C'est ça, ça permet d'aller voir ce qu'il y a sur les murs, derrière les murs, sur les toits, pardon.
C'est ça, d'aller à des endroits où t'aurais pas été normalement, puisque sur route, t'es quand même censé rester sur route, alors que là tu peux sortir, tu peux vraiment aller un peu partout,
oui,
dans le lac,
dans le machin. Pour le coup, je comprenais pas comment ça pouvait marcher à l'annonce du truc. C'était, est-ce que si je fais une sortie de route, je me retrouve sur le circuit d'à côté? Non, quand t'es en Grand Prix, t'as l'Akitu qui te ramène sur le circuit qui est prévu.
Oui, c'est ça, t'as quand même des murs invisibles, entre guillemets. Alors, c'est pas des murs, mais vous voyez ce que je veux dire, t'as quand même des triggers sur le côté de la piste. Si tu t'éloignes trop, si tu prends une route... Tu peux pas aller prendre la route départementale, tu vois. On t'a dit, c'est l'autoroute. Donc voilà, par contre, dans le mode parcours libre, là on peut vraiment aller à peu près n'importe où, on peut même aller en haut des montagnes, en bas des canyons, enfin on peut vraiment faire un peu n'importe quoi. Et le monde est suffisamment bien pensé pour qu'on puisse aller partout en carte.
Ouais.
Sans que ça pose de problème.
Avec ce syndrome de la pie, dire tiens je vais aller par là, oh putain il y a un truc qui brille là-bas, boum je ramasse un truc, je débloque un petit défi, et au final on se retrouve à l'opposé de là où on voulait aller, quoi.
C'est ça. Un open world, entre guillemets, un vrai open world, au sens où effectivement on peut se balader, il y a des petits défis, il y a des pièces à ramasser, il y a effectivement des petits interrupteurs qu'on peut allumer pour avoir un petit défi, genre essaye d'atteindre cette colline-là, avec un temps limité, avec des cercles dans lesquels tu passes, et ainsi de suite. Je sais pas ce que t'en penses au global.
Alors,
c'est le moment de tailler.
J'en pensais que c'est très sympa, ça mérite pas un torrent de fiel, mais c'est complètement accessoire. Et après 2 heures lâchées là-dedans, c'était un ouais sympa, mais balèque. Il y a quand même le côté balèque, c'est qu'il y a des défis qui sont hyper sympas. Je suis tombé sur un défi en fait qui m'a lancé un circuit qui est le circuit de la plage de la version Super NES. T'as des défis qui vont t'apprendre un petit peu des mécaniques propres à cet épisode. Et le gros truc qui me manquait, c'était... Ok, je tombe un peu sur des trucs au pif, c'est cool, mais si je veux poncer une zone, comment je fais, quoi ? Et donc ça a été patché aujourd'hui. Donc maintenant, sur la map de la totalité du monde, on voit les collectibles qu'on a ramassés. On ne voit pas ceux qu'on a loupés, mais avec l'expérience de joueur, on voit que en gros, d'accord, j'en ai ramassé 5 dans ce coin-là, le jeu me dit il y en a 8, les 3 qui me manquent, ils doivent être par là.
D'accord. Oui, donc en fait, Oui, parce qu'avant, il y avait quasiment aucune indication sur la carte. Hein. C'est-à-dire, c'est un open
non,
world, mais dans lequel
finalement,
t'as pas de checklist pour savoir ce que t'as fait ou t'as pas fait. Donc, c'est quand même très très compliqué.
Et le truc, c'est que ces collectibles ne servent pas à grand-chose à part débloquer des autocollants à la con.
Et en fait, c'est même pire que ça, parce que les autocollants, tu les débloques juste en roulant. Donc en fait, t'as même pas besoin véritablement d'aller dans l'open world, il suffit de rouler. en ligne ou en tournoi ou en survie, on y reviendra. Et donc, bah, c'est vrai que tu débloques pas grand-chose, quoi. Les costumes, c'est pas comme ça que tu les débloques. Les nouveaux personnages, c'est pas comme ça que tu les débloques. Les circuits, c'est pas comme ça que tu les débloques. Les modes de jeu ou les modes de course, genre le 200cc, le miroir, les trucs comme ça, c'est pas comme ça que tu les débloques.
Oui. L'autre énorme truc, pour moi, tu vois, ça aurait servi à quelque chose, c'est que ça sert de lobby d'attente. Quand tu veux rejoindre une partie en ligne, tu peux t'es lâché en balade libre dans ce monde et tu peux faire un peu ce que tu veux. Quand tu es en attente d'une course pour le mode en ligne, tu ne peux que ramasser les pièces ou rouler sur les plaques, mais tu peux pas faire les défis.
Ouais, ce qui fait que c'est un peu enfin, c'est un peu con. Donc du coup, c'est pas effectivement, comme je suis d'accord avec toi, il y a pas de quoi en faire un,
y a pas de quoi, c'est un peu vain, ça manque de but.
C'est ça. Ça manque, je trouve, effectivement, d'objectifs, de choses comme ça. C'est une bonne tentative. J'aime beaucoup. En fait, faut quand même en dire quelque chose de très très positif. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une seule carte cohérente avec plein d'univers différents dedans. C'est-à-dire que t'as une partie de la carte où t'as le monde de l'Asie. Tu vois que c'est le truc, c'est l'Asie. T'as une partie où c'est Bowser, donc c'est la montagne, le machin, les volcans, tout ça. T'as une partie, c'est la plage. T'as une partie, c'est la glace. T'as une partie, machin. Et tout ça, t'as des transitions de l'un à l'autre qui sont ultra cohérentes et ça marche très bien. T'as un monde de ferme, t'as un monde de trucs. Tout ça, c'est cool. Et en plus, ça donne un effet assez intéressant, je trouve, c'est que tu vas te retrouver à des endroits qui vont être familiers, mais sans être exactement identiques à ce que t'as fait précédemment.
Ça donne une combinatoire de fou pour passer d'une zone à l'autre.
Exactement. Et ça, je trouve ça super intéressant. Par contre, donc pour la construction du monde, c'est intéressant. Par contre, ce qui a été mis dedans en termes de mode open world ou vraiment de parcours open world, bah, je trouve pas ça passionnant. Voilà. C'est pas exceptionnel. Maintenant, je dis ça, mais c'est peut-être à notre génération que ça parle pas, parce que moi, les enfants ont adoré le mode open world.
Ça, c'est une bonne info. Donc,
parcourir le truc, ça les a... Eux, ça les a vraiment captivés, beaucoup plus que les modes tournoi ou les modes survie ou les trucs comme ça. Hein. C'est vraiment, eux, ils étaient là, genre, vas-y, bah viens, on va aller faire ce bout de carte. Ah, bah tiens, il y a un défi là, machin. Et en fait, eux, ils se baladaient vraiment... Voilà. Et je me dis que c'est un truc, entre guillemets, très enfantin, finalement, de se dire, bah t'as un monde à disposition, il y a peut-être pas grand-chose à faire dedans, mais il est là, il est chouette, il est rigolo, il y a plein de trucs à voir, il y a plein de trucs à faire, bah vas-y, balade-toi, fais les aventures, quoi. Donc, pourquoi pas. Maintenant... Je trouve que effectivement, enfin moi, en tout cas en tant qu'adulte, ça m'a manqué d'un objectif effectivement à accomplir, d'une checklist à remplir. C'est très con, hein, la checklist à remplir, c'est vraiment le truc le plus débile possible. Mais ça m'a manqué de pas avoir une incitation à y retourner, ne serait-ce que se dire, je sais pas, tu débloquerais
une carotte, quoi.
Une carotte ou quelque chose qui fait que. Mais c'est vrai que je trouve que ça manque un peu. Après, en termes de construction de monde, encore une fois, c'est plutôt pas mal vu. Bref, en termes de conduite et de nouveautés, on a quand même 2-3 bricoles. Donc on a maintenant 24 pilotes sur la piste.
Oui.
Qui sont vachement plus agressifs.
Ah oui, il fait pas bon être dans le milieu du peloton. Hein.
Putain, ouais, surtout qu'à 24 pilotes. Alors ça fait que les objets sont encore plus importants que dans le 8, où ils étaient déjà plus importants que précédemment. Donc le pilotage est important, hein. Si tu pilotes comme une grosse quiche, ça marche pas. Mais finalement, t'as quelques raccourcis, t'as pas mal de nouvelles techniques de pilotage.
Mais... Pense au wall ride.
Je pense au wall ride, je pense.
Alors qui est pas si évident que ça à maîtriser. Hein.
On est d'accord.
Donc c'est là, ça faisait les petits défis sur le mode balade m'ont appris comment utiliser ce truc. Quoi.
Et puis en plus, alors c'est vachement intéressant parce qu'en fait, tu peux y jouer 100% comme sur Mario Kart 8. C'est-à-dire juste du dérapage. Des objets, des turbos quand tu gères, couper le truc un peu machin, donc tu peux vraiment y jouer Mario Kart 8 style et tu retrouveras tes marques, hein. La physique est quasiment la même, il n'y a pas, de très 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 grosse nouveauté de ce point de vue là. Mais si tu fais ça, je trouve que tu rates une partie du jeu.
Oui.
Parce qu'en fait, quand tu joues avec les wall rides, avec les rides tout court, c'est-à-dire
les
avec
slides,
le truc,
là, oui.
Les slides façon Tony Hawk, c'est-à-dire tu vas monter sur ligne électrique, sur les bouts de machin, sur les trucs comme ça, bah en fait, tu joues vraiment différemment de Mario Kart 8, et globalement, tu gagnes du temps par rapport à quelqu'un qui jouerait de manière un peu plus traditionnelle. Mais ça demande une sacrée maîtrise du jeu et de sa physique, c'est pas si évident que ça.
Hmm.
Je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai l'impression qu'en termes de pilotage, voilà, tu... Si tu viens de Mario Kart 8, tu retrouves très vite tes marques, mais finalement, c'est pas la meilleure façon d'y jouer.
C'est ça, t'es à la maison et quand même, t'as ce sentiment de... Ah, d'accord, il y a des trucs différents qu'il faut que je réapprenne.
C'est ça. Et là, t'as un vrai incentive parce que voilà, quand tu joues vraiment à la Mario Kart 8, tu le vois surtout en mode en ligne. En fait, tu te fais quand même tataner le cul, quoi. Enfin,
t'as
quand même
des mecs. Les gonzes, tu dis comment il a fait ça. D'accord, ok.
C'est ça. En fait, t'as souvent des. Alors, t'as un peu moins de raccourcis.
Il y en a, mais ils sont beaucoup moins évidents à piffer. Puisqu'en fait, techniquement, ils sont partout.
Bah, en fait, c'est ça, il y en a effectivement un peu partout. C'est assez difficile à expliquer, mais effectivement, chaque fois que t'as une barrière de sécurité, que t'as un câble électrique, que t'as un truc
comme
ça...
Elle sert à quelque chose.
Un mur au loin où tu te dis, bah, je vais prendre le virage vers l'intérieur, pourquoi je le prendrais vers l'extérieur, sur le mur? Bah, en fait, quand tu le prends sur le mur, t'as un turbo, et en vrai, tu vas quand même relativement vite. Donc, dans certaines situations, t'es un peu à l'extérieur, t'as pas trop d'objets, t'es au milieu du pack, prendre l'extérieur pour avoir le turbo, plutôt que de prendre l'intérieur pour faire un dérapage, ben, ça peut te donner un petit avantage, quoi. Donc, il y a vraiment
et au minimum, une façon ça va être différente fun. D'y jouer. Au minimum, ça va être fun. Et ça, ouais. Pour le coup, le fun, il est... Ça c'est gardé, hein. C'est toujours là, et c'est très, très présent.
C'est ça. C'est exactement ça, c'est toujours... Quelle que soit la façon dont on joue, de toute façon, on s'amuse. Hein. Ça, y a pas de souci là-dessus. En termes de pilotage Dia. Encore... Alors, Dia est extrêmement agressive.
Oui, et c'est pour ça que ça rajoute au fun. On n'a jamais trop l'impression d'être avec des... Enfin, de rouler sur l'ordinateur. En
150cc.
Alors oui, en 50cc, ok. Mais en 150, pour choper la première place à chaque course, faut s'accrocher.
Ouais, et surtout en mode survie, on reviendra sur le mode survie après, mais c'est vrai que là, il y en a quelques-uns en 150, faut quand même avoir les raviolis bien accrochés, quoi. Faut y aller, hein. C'est vraiment, faut être agressif, faut pas hésiter à prendre les raccourcis, faut vraiment y aller, faut... Il y en a où t'y arrives parce que tu sens que t'as eu quand même du bol, hein, au milieu, pour y arriver. On a pas mal de nouveaux items, alors... On a dit les armes sont un peu plus importantes dans ce Mario Kart. On a pas mal de double items, on a beaucoup d'items. Depuis la toute dernière mise à jour, celle qui date d'aujourd'hui, les items repop plus vite.
Oui, au sens où si vous êtes habitué à jouer à la version portable, où tu passes une boîte, quelqu'un d'autre passe derrière, boum, il a l'objet aussi. Là non, il y avait un temps de repop de la boîte, la boîte à cadeaux, quoi, la boîte à objets. Et oui, depuis le patch d'aujourd'hui... La boîte objet repop plus vite. Donc, si on est en train de choper l'aspiration de quelqu'un, on a beaucoup plus de chances de choper l'objet nous aussi.
Ce qui est pas mal parce qu'effectivement, à 24 pilotes, les objets ont vraiment une grosse importance.
Louper un objet, ça peut être louper une course.
C'est ça. Il y a un aspect quasi stratégique là-dedans où t'es vraiment très, très, très fortement encouragé en tout cas à choper les objets pour essayer de gratter le plus possible parce que tu vas vraiment gratter des places là. 24 pilotes. T'en es plus à te dire ok, je suis 3ème, ça va être un peu compliqué. T'en es à te dire je suis 8ème, il va quand même falloir bourrer, quoi. Donc compliqué. Dans les nouveaux items ou les items qui font leur retour, moi j'ai noté la plume.
C'est un gros mais sur cet objet.
Alors, comme il y a beaucoup de trucs où tu dois sauter, alors il y a un nouveau move. Pas parler, mais c'est vrai que on en a déjà parlé avant, c'est pour ça que voilà.
Le dérapage en ligne droite, moi j'appelle ça.
C'est une bonne définition. Donc on se rappelle, quand on appuie sur ZR, on fait un petit saut, et si on part sur le côté, on part en dérapage, ça n'a pas changé. Mais là maintenant, si on ne part pas sur le côté, en fait on fait un petit saut, et le kart s'aplatit un peu, et en fait, on peut derrière lâcher pour faire un saut. Et c'est très difficile à maîtriser.
Oui.
C'est pas évident du tout, parce qu'effectivement c'est un dérapage en ligne droite, c'est assez compliqué. Mais ça sert effectivement à faire les wall rides et les rides de manière générale. La plupart des rides ne sont pas accessibles directement. Il faut souvent faire un petit saut de ce genre-là. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper 2 ou 3 secondes avant.
Se mettre sur la bonne trajectoire, charger
exactement,
le truc.
Parce qu'en plus on a moins de contrôle de trajectoire. Et quand on fait le saut, si on commence à tourner, bah forcément on part en dérapage. Donc c'est vraiment pas évident à maîtriser au départ. En tout cas, hein, c'est vraiment un mouvement... On sent une vraie intentionnalité pour le faire, quoi. On peut pas juste le faire de manière un peu automatique.
Pif.
Voilà, faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait. Mais l'idée de la plume, en fait, c'est que ça permet de choper plus facilement, en tout cas au moins en théorie. C'est-à-dire que t'as juste un bouton pour faire un super saut qui te permet d'aller accrocher
Oui, parce que le
Un
saut,
ride ou un
le
wall ride.
dérapage en ligne droite se charge à deux niveaux comme un dérapage.
Et la plume, t'as directement le niveau 2. C'est quand même intéressant. Je voulais dire je sais plus quoi sur cette histoire de plumes. Voilà, donc je suis d'accord avec toi, c'est pas évident. Par contre, les plumes permettent aussi d'esquiver les carapaces rouges.
Ah oh.
Et...
Oh. Je vous ai appris un truc là-dessus. Le
Oui!
stick droit qui te permet de piloter la caméra, du coup, te permet de tirer ton objet sur les côtés.
Exactement, tu peux tirer une carapace verte ou une banane, n'importe quoi, tu peux le tirer avec un angle en fait.
Alors, faut une troisième main
Mais c'est pas
pour
évident, ouais.
garder l'accélération et toucher le stick droit, ou avoir une manette pro qui te permet de foutre les contrôles de caméra sur les gâchettes qu'on a sur les poignets, quoi.
Alors la plume, ça permet de sauter, hein. Je sais pas si on était clair, ça permet en fait d'aller faire ce saut. Parce qu'on nous pose la question dans le chat, hein, ça permet d'aller faire un saut, mais en fait ça permet d'aller faire le saut de niveau 2 de cette espèce de dérapage en ligne droite qui est, bah, tu maintiens la touche de saut, mais sans toucher aux directions, donc le kart s'aplatit pendant quelques secondes, il charge un niveau de saut, deux niveaux de saut, tu relâches, le kart fait un énorme bond. En fait la plume elle fait l'énorme bond tout de suite.
Tout de suite, sans que tu aies à te faire chier à avoir la bonne
Voilà.
trajectoire et tout ça.
Donc tu peux, c'est plus simple de prendre certains raccourcis, certains wall rides et autres quand t'as une plume en fait. Je crois que c'est à peu près tout sur la plume. Il y a un autre truc qui m'est venu en tête aussi, il y a un autre move, mais ça m'est sorti de la tête. Donc oui, on peut viser. Et ça, c'est quand même pas mal. Les objets restent tout le temps derrière toi aussi, ça fait partie des petites
Oui,
nouveautés.
sans qu'on ait besoin de maintenir la touche d'objet.
C'est ça. Avant, pour Mario Kart 8, l'objet, en fait, il était chargé dans la case cadeau. Fallait maintenir pour le sortir derrière, et en fait, quand tu lâchais la touche, c'est là où l'objet partait. Là, l'objet, il est systématiquement derrière toi. C'est-à-dire que tu ramasses une carapace verte, elle est derrière toi, elle te protège. Pas besoin de faire autre chose. Par contre, les collisions d'objets sont beaucoup plus précises. C'est-à-dire que, dans Mario Kart 8, quand tu t'avais une carapace verte que tu faisais traîner derrière toi, la carapace rouge, elle arrivait de n'importe quel angle, elle prenait cette carapace verte. Là, c'est pas toujours le cas. Il y a des angles où la carapace rouge te touchera. L'objet qui est derrière toi a vraiment une physique et une collision, un machin. C'était pas un mur de protection derrière toi complet. C'est vraiment juste l'objet qui te protège. Alors,
Très satisfaisant de balancer une carapace rouge entre les trois carapaces vertes.
Exactement. Je sais pas pourquoi ça a été fait. Moi, j'ai l'impression que ça a été fait parce que justement, il y a beaucoup de lignes droites dans ce jeu et que ça permettait justement d'apporter une petite subtilité par rapport à ça, mais. Peut-être que c'est une idée, tu vois, je suis
Ah, pourquoi pas.
pas
Pour ajouter un peu
catégorique.
de vie sur les
Ouais.
pistes plus larges, tout ça, ça te permet de faire des trucs un peu plus.
Un peu plus sympa. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'en servent, hein. J'ai pas vu en ligne des gens qui visaient vraiment avec leur carapace verte de manière ultra précise, j'ai l'impression que.
Dans l'urgence, tu tabases et puis tu verras bien ce qui se passe.
C'est un peu ça, mais surtout qu'à 24 jours, en fait, t'as quand même de bonnes chances, si t'es dans le milieu du pack, en tout cas, d'en choper un, quoi. Y a la carapace en or, qui est un des nouveaux objets, qui est. Alors lui, par contre, il est vraiment mais en l'occurrence.
Truc qui lâche des pièces, qui va en ligne droite. Si t'as le malheur d'être sur la trajectoire, tu te la prends. Je sais plus si elle est plus ou moins autoguidée ou pas.
Alors, pour moi, elle va au milieu de la piste et elle remonte jusqu'au premier.
Ok.
Façon carapace bleue.
Façon Bullet Bill ou. Ok.
Ouais, c'est ça. Par contre, elle est bien au milieu de la piste, tu vois. Donc, si tu la vois arriver, tu te décales un peu. Tu sais que t'as peu de chances de la prendre. Je crois pas qu'elle ait de détection de proximité qui fait qu'elle va virer de trajectoire. Enfin, je l'ai pas vu en tout
Ok.
cas.
Moi, j'y vois des pièces gratos et un truc qui t'ouvre le chemin au milieu du pack, quoi.
C'est ça, c'est à peu près ça. Ce qui est. Je trouve un peu intéressant, c'est que finalement, ça fait que tout le monde va s'écarter, mais que toi, quand t'es derrière, bah, tu vas. Ouais, c'est comme au football, quoi. Tu chopes le ballon et tu cours. T'es un peu le. Donc pourquoi pas? Effectivement, ça a de l'utilité. Sachant que les pièces, on peut en collecter 20 au lieu d'en collecter 10, et ça apporte quand même un bonus de vitesse max qui est pas négligeable.
Ah ben clairement, oui.
Surtout sur les en
En mode
survie.
survie, c'est obligatoire, ouais.
Ouais, parce que là c'est vite, vite, vite. Enfin, comme les courses sont longues, c'est vraiment c'est assez compliqué. Bref, il y a une fleur de glace qui est assez
Ouais.
sympathique. Elle ralentit les adversaires sans les. Je suis pas bien méchant, mais c'est quand même intéressant. Il y a le Kamek. Alors le Kamek,
Alors,
c'est bizarre.
le Kamek, c'est la loterie qui te sert à débloquer des persos PNJ.
Ouais, c'est à peu près ça que j'ai retenu moi. Parce qu'en fait, alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, ça transforme tous les concurrents qui sont devant toi en une créature spécifique. Donc, en
Alors,
général, un méchant, ou une vache, ou un truc comme ça. Enfin, les personnages un peu secondaires, finalement. L'équipe B.
j'ai envie de croire, tu vois, comme à l'époque, la tache d'encre, alors qui a été bien bien buff hein, dans celui-là, la tache d'encre, on se disait, mais finalement, si je connais le circuit, je m'en fous. Est-ce que l'effet recherché, c'était juste si je suis au milieu du pack et que tout le monde ressemble à mon perso, je sais plus où je suis?
Alors, moi j'ai l'impression que ça. Enfin. Ça change la physique. Ça peut être surprenant. Parce que quand t'étais Mario et que tu te retrouves vache, bah, je peux te garantir que c'est. Tu chasses pas du tout de la même manière.
Au minimum, tu rigoles déjà.
Au minimum, tu rigoles, mais voilà. Et ensuite, ça crée quand même des obstacles devant le premier. Et des obstacles
ah,
qui sont
okay.
pas négligeables. C'est-à-dire que quand quand Kamek transforme tout le monde en vache, en fait, t'as des vaches, des meumeux, des vrais meumeux, qui débarquent au milieu du circuit alors que t'as rien demandé. Donc, pareil, quand t'es dans les premiers, bah, c'est compliqué.
Oui, Kirby, t'as raison. Tout le monde se ressemble, mais t'es toujours au milieu de ton écran.
Oui.
T'es un peu con, mais
non, mais pourquoi pas. Mais ouais. Pour moi, le truc, c'était ça. Ça mettait des obstacles pour tout le monde et ça changeait la physique de ton kart. Donc, si t'es dans un instant un peu délicat, dans un virage un peu délicat à gérer,
peut
ça va te casser les couilles.
Pour moi, ça sert surtout à débloquer. Voilà, si c'est la première fois que t'es transformé en vache, pour toutes les courses
tu
d'après, tu pourras à l'écran de sélection du perso choisir la vache.
Et pour moi, ça sert effectivement surtout à ça. Je crois que c'est à peu près tout en termes de nouveaux objets. Il y a finalement pas grand-chose. Il y a peut-être des choses qui m'échappent.
Oui,
il y a des fonctionnements
des
un peu différents sur
des équilibrages.
Ouais.
Genre l'étoile dure beaucoup moins longtemps.
Tout à fait.
Comme je disais, la tache d'encre, elle dure beaucoup plus longtemps.
Et elle est beaucoup plus étendue. J'ai l'impression.
Ouais.
Aussi. Elle
pour le coup,
violente.
elle fait bien chier maintenant. Vu que sur la plupart des circuits, ligne droite, une tache d'encre, tu vas te manger une bagnole, c'est sûr.
Oui. Mais parce que c'est pas parce que c'est des lignes droites qu'il y a. On en reparlera, hein, mais c'est pas parce que c'est des lignes droites que c'est pas c'est inintéressant à jouer. Il y a quand même des trucs.
Le champi doré, il est bien vénère aussi.
Alors maintenant, surtout, il a une petite barre de. Il descend au fur et à mesure. La première fois qu'on l'utilise, il commence à se vider tranquillement, et si on l'utilise pas, ben, il continue de se vider. En fait, il a une durée dans le temps plutôt que d'avoir un nombre d'exécutions. Mmh. Et elle est visible, ce qui est important. Est-ce que tu veux qu'on parle des modes de jeu? Je pense que ça peut être une bonne idée, comme ça après on peut aborder les circuits et la façon dont
et
ça fonctionne.
Musique, et la musique.
Et la musique et les thèmes et tout ça, parce qu'il y a vraiment des trucs très 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 rigolos.
Alors, mode de jeu.
Donc, on a le classique tournoi.
Oui, le Grand
mais
Prix.
Mais qui fonctionne un peu différemment. Alors, le tournoi, on commence par un circuit, un vrai circuit, c'est-à-dire 3 tours.
Au sens 3 tours.
Voilà. Ensuite, on part sur l'autoroute. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller partir dans l'open world et joindre un point A à un point B. C'est une descente, exactement comme on avait dans Mario Kart 7, quelques circuits de Mario Kart 8. Donc on va vraiment aller rejoindre un autre point du monde. Puis on a une deuxième descente. Puis en fait, on a une troisième descente un peu particulière, puisqu'elle se termine par un tour de circuit.
Et un seul tour.
Et un seul tour. Ce qui est... Moi, ça m'a un peu fait chier, parce qu'il y a quand même des circuits qui sont très très bons.
Il y a des circuits voilà, où, à la fin du premier tour, il y a un petit goût de reviens-y, quoi.
Ouais, t'as envie de refaire un deuxième tour, un troisième tour, parce que c'est cool, quoi. Il y a vraiment des trucs intéressants et tout. Donc ça,
même
c'est
si t'as des circuits qui s'y prêtent pas, je pense au Donkey Kong.
Oui, je pense que
le circuit est juste dingue, mais arrivé à la fin, ok, c'est la fin, quoi.
Ouais, t'as quand même des trucs, voilà. Donc c'est assez rigolo, mais ça a valu le surnom de Mario Kart Autoroute, parce qu'effectivement, t'as pas mal de trucs où t'as en fait, juste une espèce de ligne droite, alors qui est pas vraiment une ligne droite.
Non, oui, c'est une spéciale, mais qui est moins intéressante qu'un circuit, alors, ne serait-ce que dans la DA, dans le thème du circuit. L'intérêt de ça, c'est que en mode en ligne, où chacun va choisir le circuit qu'il veut, bah, ça donne une combinatoire un peu tarée pour passer d'un circuit à l'autre.
Le second intérêt, on l'avait dit tout à l'heure, c'est que finalement, t'as des tournois où tu vas passer d'une ambiance à l'autre et d'un univers à l'autre, tu vas retraverser des zones familières, mais jamais sur les mêmes routes, jamais avec les mêmes obstacles et pas de la même manière. Et voilà, donc ça fait un effet rigolo de se dire, c'est un circuit familier, tu connais ce morceau de circuit, mais t'es pas sur la même route, t'as pas les mêmes obstacles, t'as pas les mêmes raccourcis, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. C'est un peu rigolo. Voilà, on va
ouais,
dire ça comme ça.
À dire, c'est ça, je suis à la maison, mais je fais gaffe quand même, quoi.
Ça t'oblige à rester un peu vigilant. Maintenant, ça reste, alors pas tous, mais ça reste quand même une. Alors, c'est pas une ligne droite, c'est très exagéré de dire ça.
Non, mais c'est du très large.
Ouais, c'est ça, ça reste très large. Avec, t'as quand même quelques passages, je pense notamment aux coupes, les toutes premières coupes, où t'as vraiment une grosse ligne droite, puis c'est à peu près tout, quoi. T'as des voitures en face, t'as des obstacles et tout, mais ça reste un peu limité, je trouve.
Oui, Bah, le truc, ça va être empêcher les gonzes de prendre les turbos, les bourrer dans le trafic pour qu'ils se mangent les bagnoles, les camions.
C'est ça. Mais c'est un peu comme si t'avais un circuit Toad, tu vois. Mais la moitié du jeu, c'était un circuit Toad.
Et entre chaque circuit, ouais.
Et entre chaque circuit, donc c'est un peu. C'est pas ouf.
Frustrant, c'est frustrant. S'ils avaient gardé ça, mais qu'on ait trois tours de circuit à la fin, ça aurait été énormissime.
Je pense aussi, ouais, parce qu'en vrai, trois tours de circuit pour démarrer, deux sections d'autoroute, trois tours de circuit, moi ça m'allait très bien, quoi. Et là, on se retrouve en mode tournoi, je trouve un peu. Voilà, c'est pas inintéressant, mais tu sens que c'est. Alors, à mon sens, le mode tournoi n'est pas forcément le plat principal du jeu. Moi,
Je
j'ai
suis
l'impression que le
d'accord.
plat principal, c'est plus le mode survie.
Et là, c'est juste génial.
Et là, c'est effectivement, oui, Mario Kart périph' parisien, c'est un peu abusé, mais c'est un peu ça. Mais t'es pas à 50, hein. Là, je te garantis que ça, tu bourres un peu plus que ça.
Et donc oui, le mode survie.
Là, c'est
Eh ben,
génial, par contre.
voilà, c'est une succession de lignes droites ou morceaux de circuit ou etc. Mais en course à l'australienne.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on démarre à 24, premier checkpoint, on n'est plus que 20, deuxième checkpoint, plus que 16, et ainsi de suite, et en fait, ça dégringole, et à la fin, on termine avec une fin de circuit, exactement comme en mode tournoi, c'est-à-dire qu'on termine avec un dernier morceau, on n'est plus que 4, et là, voilà. Et je trouve que c'est le mode qui était le plus. Alors, c'est triste, hein, parce que c'est Mario Kart Battle Royale, donc je voudrais quand même qu'on y repense, mais c'est un peu ça. Mais c'est, je trouve, le mode sur lequel cet open world, c'est les descentes, le Mario Kart Autoroute,
Là, ça marche.
là ça marche.
Là,
On
ça
est
marche à
d'accord.
fond. Ouais.
Et c'est
Là.
vraiment hyper prenant, c'est stressant.
Ah, du début à la fin.
Exactement, ça marche super bien. Alors qu'on est vraiment, on est pris dans le jeu. Tu fais un quart d'heure, parce qu'en plus ça dure, c'est long, hein. T'as 6 sections au total dans chaque mode survie.
Oui, c'est ça. Ça fait un quart d'heure
Ça fait 15 minutes.
du début aux quatre premières places, quoi.
Sans discontinuer, à partir du 150 cc, c'est un quart d'heure dans lequel tu es obligé d'être vraiment concentré à fond. Là, tu ne peux pas te permettre de te relâcher à aucun moment. Et je trouve ça hyper cool. Et la survie en ligne, elle est juste extraordinaire, quoi. Tu vis vraiment des moments complètement ouf. Où tu te bats pour la 11e place pour éviter d'être éliminé. Enfin, t'as vraiment des morceaux d'histoire complètement ouf à raconter derrière, quoi.
Alors oui, Kerbix, le GP traditionnel mode VS, tu peux choisir tes circuits classiques en trois tours.
Alors, apparemment, ça a été un
Le
peu simplifié d'ailleurs sur.
bouton était un peu planqué, ouais, quand on avait essayé à plusieurs.
Parce qu'en fait, au départ, c'était pas planqué, puis ça a été planqué, puis là maintenant, ça a été déplanqué parce qu'il y a plein de gens qui étaient pas contents et qui voulaient juste faire du circuit. Et je reconnais un truc là-dessus, c'est que en mode en ligne, quand on fait juste des. Pas de la survie, hein, vraiment du 1 par 1, mais je trouve que le seul. Enfin, pareil, le seul mode intéressant en ligne, je trouve que c'est vraiment la survie. Enfin, ça a pour moi survolé un peu tout le reste. Mais en mode en ligne, en fait, c'est un peu plus simple maintenant de faire des circuits. Et je peux comprendre que les gens aient envie de faire des circuits parce qu'il y a vraiment des circuits qui sont très bons. C'est un peu dommage de les faire juste en queue de. Tu vois,
En
enfin, il
petit
y a un goût
apéro,
de
quoi.
reviens-y, tu vois. Je suis d'accord
Ah,
avec
mais
toi sur le
oui.
fait que sur le dernier circuit, moi, il y a des fois, je trouvais ça frustrant de dire, ah putain, c'est fini, j'aurais bien fait un deuxième tour, quoi. Voilà. Ceci étant dit, c'est quand même les principaux modes. Il y a un mode bataille
Oui,
que j'ai assez
c'est
peu joué, bon.
même chose, les lancer, ok, ça marche. J'ai jamais, à part sur la version Super NES, j'ai jamais été hyper client du mode ballon.
Moi, j'ai bien aimé sur Mario Kart DS, je crois, où
DS,
ça marchait
si
très
sur
très bien,
DS, ouais.
à plusieurs.
Sur DS, c'est vrai.
Alors, est-ce qu'on aura un morceau de carte d'Hyrule dans le DLC de Mario Kart World? Est-ce qu'on aura l'intégralité de Breath of the Wild dans Mario Kart World? C'est une très bonne question. J'en sais rien. Voilà. Mais c'est vrai que voilà. Pour revenir au truc, le mode bataille, bon, ça marche toujours bien. Mode pièce, mode bataille, machin, t'as toujours les mêmes trucs, mode survie et tout. C'est cool. Ça marche bien, c'est des circuits dédiés.
Oui, des arènes.
C'est des arènes dédiées. En vrai, ça marche aussi bien que dans le 8. Hein. C'est un mode très très cool pour faire du party game pur et pas de la course.
C'est ça.
Mais je trouve que ça a été supplanté. Enfin, pour moi, ça a été supplanté par le mode survie A4. C'est juste une grosse tuerie, quoi. Tu te tapes des putains de barres de ouf.
Ah oui, non, mais c'est là où le coup de pute prend toute sa saveur, quoi.
Exactement. C'est là où la carapace bleue. Quand t'es ju juste avant le truc qui t'élimine, quand t'es à la 12e place, c'est là où là t'as une petite remontée acide, une petite envie d'aller coller une beigne à un mec. C'est vraiment c'est là où il y a du plaisir, quoi. J'ai envie de te dire.
Il y a du pain, il y a du pleasure, quoi.
Le time trial, classique.
Bon, ça, c'est des grands classiques. Je te propose avant de donner, on va dire, un avis général sur le jeu, ce qu'on va finir par faire, je te propose de revenir sur les nouveaux thèmes, les nouvelles courses, les nouvelles musiques.
Ah putain.
Tous ces trucs-là, parce que, voilà, artistiquement, en termes de direction artistique, je pense que le jeu, il met quand même une douille à une quantité de jeux aujourd'hui qui est juste.
Ah oui.
C'est phénoménal, quoi.
Ah oui, non, mais la technique est dingue, le ressenti en manette en main, c'est toujours aussi bon. Comme je disais, le fun est là, quoi. C'est des barres et des barres de rire ou de moiteur dans les paumes de main quand on est deuxième en survie. Enfin, c'est que des moments plaisants. Et tout ça est aussi rendu possible par cet enrobage de petites animations, de petits détails. Le mode balade, on n'en a pas trop parlé, mais c'est pas présent partout, mais il y a des petites animations vivante, on va avoir des taux de cadence qui attendent le bus, qui montent dedans, enfin, plein de petits trucs qui collent la banane. Mais surtout, qui sont les génies qui ont eu l'idée de prendre l'intégralité du catalogue Mario, Donkey Kong, Yoshi, de faire des réarrangements jazz swing transpirent l'ambiance speakeasy et de caler ça là-dedans. Comme je disais, tout à l'heure, j'ai testé le petit patch, je suis encore tombé sur des musiques que j'avais jamais entendues.
C'est extraordinaire. La quantité de morceaux qui ont été réorchestrés ou orchestrés pour ce Mario Kart World, elle est juste démente. Et en plus, on pourrait se dire que c'est compliqué, parce que effectivement, souvent, dans une survie ou dans un tournoi, tu vas passer d'une ambiance à une autre, mais c'est smooth de fou. C'est-à-dire que tu passes du thème remixé complètement de la ferme Moumou de la version Wii, mais totalement remixée, tout d'un coup, t'as un thème de désert qui va te faire penser au village Maskass de la version DS. T'as toutes ces ambiances qui sont mélangées, et ça marche putain de bien, sa race, quoi.
L'arrangement de jazz de Luigi's Mansion, il est à tomber.
Il est ouf. Et alors, justement, on parlait des thèmes. Alors, on a des thèmes qui reviennent. Il y a la plage Koopa, il y a le château de Peach, il y a les thèmes dans l'espace, parce qu'il y en a quand même. Il y a quand même un circuit.
Incroyable.
Voilà. Il y a les thèmes de ville qu'on a pas mal retrouvés, qui étaient les circuits Toad et autres. Et puis, il y a les villes près de la mer qu'on avait dans Mario Kart 8 aussi, les villes balnéaires. T'as les thèmes industriels qu'on avait dans Mario Kart 7. On en a parlé tout à l'heure, mais le airship qu'on avait dans Mario Kart DS. Donc tous ces trucs-là, tu vas les retrouver. Tu vas retrouver plein de thèmes existants différents, et t'as aussi plein de nouveaux thèmes qui sont juste ouf. Les ruines aztèques, c'est trop bien. Tout un truc suspendu, c'est trop bien. C'est un truc de malade. Le cinéma boue, c'est juste.
Ah, mais c'est fantastique.
Le circuit, il est fantastique. Moi, qu'à chaque fois que je fais le cinéma boue, je regrette de pas faire 3 tours dedans, ça me fait chier.
Oui, bah oui, quand t'as le 3, 2, 1, tu passes à travers l'écran, là t'as envie de le refaire. Ça.
T'as envie de le refaire, c'est trop bien. T'as des trucs où tu passes en noir et blanc, puis tout d'un coup tu repasses dans la salle de cinéma, puis tu vas dans l'écran. Enfin, c'est complètement ouf. Il y a vraiment les thèmes et les ambiances, aussi bien musicales que visuelles, je trouve que c'est ouf. Et il y a un boulot de taré pour arriver à se débrouiller pour que ça fasse pas des thèmes qui sont agrafés les uns aux autres. T'as vraiment des transitions entre tous ces morceaux de monde qui rendent l'ensemble hyper cohérent. Et ça, je trouve ça gueudin. Et encore une fois, c'est une des grosses réussites de cet open world, c'est ça, quoi.
Ouais.
On est vraiment dans un truc où, quand tu fais le mode tournoi et qu'après tu fais le mode survie, tu te rends compte à quel point c'est ouf, que finalement tu vas passer par la zone asiatique. En fait, on dirait une espèce de parc d'attractions géant, tu vois, un peu comme le parc Astérix. T'es dans la zone grecque,
hein. Ouais.
Et puis tout d'un coup tu te retrouves dans la zone mille et une nuits, et t'as pas vu la transition, quoi. Le truc est smooth de ouf. Et ça passe, et ça change de thème. Et
la
tout
zone
coup,
safari,
la musique change.
C'est génial aussi.
La zone safari,
la première fois. Oui, la zone dinosaure.
T'avais un circuit sur GameCube, un circuit sur 3DS, allez, boum, t'as une zone dinosaure, et c'est parti, quoi.
Et là, pour le coup, le mode balade, c'est rigolo d'aller dans l'observatoire qui est juste à côté, que tu vois pendant le circuit, et il y a plein de trucs à l'intérieur.
Ouais, mais t'as plein de trucs de ouf à faire, enfin voilà, mais même les zones industrielles, les zones de stade, t'as un stade Peach, t'as un stade Wario, et t'as des zones où il y a de la boue, exactement comme t'avais dans le stade Wario. Voilà, le seul truc je trouve qui manque, c'est que il y a les circuits un peu complètement délirants qu'on avait dans certains Mario Kart. Je pense à Mario Kart 7 avec les circuits qui étaient sous l'eau. Je pense
à le flipper.
Ça, c'est des trucs, c'est plus difficile à intégrer, je pense. Donc il y a quand même eu des choix qui ont été faits pour se dire, on va mettre des ambiances connues, des nouvelles ambiances.
Voilà, nouvelles ambiances, même si, j'espère, si je commence la liste de ce qui me manquerait, qui pourra arriver à coup de DLC, des tuyaux par-ci par-là, et boum, t'es dans le multivers.
Là, on est parti. Là, on serait vraiment parti. Bref.
Ce qui me manquerait, un mode jukebox pour prononcer cette PO.
Ça, c'est clair.
Le mode 200, il est planqué pour l'instant. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais si vous faites la route arc-en-ciel. La dernière portion, mettons vous jouez en 100 cc, la dernière portion elle est en 150. Du coup, si vous jouez en 150, la dernière portion elle est en 200.
J'avais pas fait gaffe à ça.
À chaque fois, ça te donne le petit goût de passer au mode d'après.
D'accord, j'avais pas fait gaffe à ça, mais effectivement.
Tout ça pour dire que le mode cc actuellement, 200 cc n'est pas là, viendra peut-être après.
On espère. Enfin, on espère. En fait, ça cassait un peu le jeu dans Mario Kart 8, mais c'était rigolo.
Ouais, mais ça le flinguait. Enfin, même si c'est là où j'ai découvert l'utilité du bouton frein.
On est d'accord, c'est le mode frein. C'est très très difficile. Bref, qu'est-ce qu'on en a pensé au final de ce Mario Kart Tour ? Alors, est-ce que le terme de Mario Kart Autoroute est vraiment justifié ? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même. Il y a un petit
peu de ça. C'est-à-dire,
les tournois sont moins intéressants, mais la survie est vachement plus intéressante.
Ça dépend. Ça dépend. Le gros problème qui biaise mon avis et celui de beaucoup, je pense, c'est le prix du jeu. S'il était à 60 balles, ça serait un jeu exceptionnel. Là, le fait qu'il est à 90, pour moi, il ne les vaut pas encore.
Moi, en fait, ce qui m'ennuie, c'est surtout que... Mais j'ai l'impression que c'est comme toi, en fait, c'est plus une question de valeur. Je regarde Mario Kart 8 dans l'état dans lequel il est actuellement. 96 putains de circuits. Ouais. Des personnages en veux-tu en voilà, une physique de ouf, des tournois intéressants, des circuits de malade, un mode en ligne qui tourne du feu de dieu, et je me dis finalement le plus gros concurrent de Mario Kart World, en fait c'est Mario Kart 8. Alors, oui. En termes de contenu, en termes de fun, en termes de machin, si t'as Mario Kart 8, en vrai, t'as pas besoin de Mario Kart World quoi.
Pour l'instant,
c'est triste à dire, hein, pour l'instant.
Pour l'instant, bon oui, mais hein, déjà à l'époque, on se disait, vu l'état de Mario Kart 8, on se disait comment ils vont pouvoir faire un nouvel épisode. Quoi.
Et finalement, j'ai l'impression qu'ils ont un peu galéré. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour moi, ce qui sauve Mario Kart World aujourd'hui, ce qui ne justifie pas l'achat, encore une fois, effectivement, je suis d'accord avec toi d'un point de vue valeur, il aurait valu 60 balles, no brainer. C'est le truc,
oui,
tu l'achètes, tu réfléchis pas, il n'y avait pas.
Non,
pas à chier.
Même chose, attention, je dis pas qu'il n'y a pas un taf de taré sur le jeu. Hein. Techniquement, il est incroyable, tout répond au poil de cul. Même niveau arrangement, on n'imagine pas les centaines et centaines d'heures qu'il y a dû y avoir pour faire cette BO de dingue. Mais quand même, quand on a la manette dans les mains, il manque un petit truc.
Moi, j'ai l'impression que il manque un côté. Finalement, il manque un côté un peu technique que t'avais dans Mario Kart 8 à haut niveau quand tu commençais à taper du time trial, quand tu commençais à faire des trucs comme ça, tu voulais te buter sur le time trial en ligne, tu pouvais y aller quoi. Là, dans le Mario Kart World, j'ai l'impression que là où les gens vont un peu se buter, c'est la survie, parce que franchement, c'est fun. Mais les tournois, finalement, est-ce que ça a un goût de reviens-y ? Oui et non, quoi. T'as pas forcément hyper envie de relancer un tournoi. Voilà. Est-ce que t'as envie d'aller lancer un circuit en ligne ? Oui. Un circuit, oui. Une autoroute, pas forcément.
Ouais. Ouais, ouais.
Donc, moi, j'ai l'impression que là-dessus, il y a eu, entre guillemets, un petit raté. Après... On a vu la trajectoire de Mario Kart 8, on se doute que Nintendo a des trucs dans son chapeau, on se doute qu'il va y avoir un DLC qui va rajouter un morceau de deal, un truc comme ça. C'est évident.
Peut-être qu'il manquerait, vu que les pistes sont plus larges et qu'il y a ces longues sections de ligne droite, qu'il manquerait ce côté. Dans le 8 et tous les précédents, plus on avançait dans les Grands Prix, plus on avait l'impression que les circuits étaient compliqués. Enfin, qu'ils demandaient de technique. Alors que là, ils passent tous. Quoi.
C'est ça, en fait, t'as quand même une...
peut-être pas le même bagage de joueurs non plus.
Ouais, mais tu vois, dans les tournois officiels, finalement... Alors, quand on dit c'est une ligne droite entre deux circuits, c'est quand même très exagéré en général.
Ah oui,
ça
oui,
non, c'est... un peu et tout, c'est pas tout à fait ça.
Il y a des obstacles, il y a des trucs. Mais
quelques morceaux où, effectivement, si t'es premier, t'as pris un peu d'avance, tu te retrouves quand même au milieu de la route à pas faire grand-chose, quoi.
On va pas ressentir ce besoin de t'accrocher, quoi.
C'est ça. C'est ça. Et enfin, donc demi-teinte, c'est exagéré. Enfin, dire que le jeu est mauvais, c'est exagéré. Faut...
Non.
Vraiment, enfin.
Non. Mais c'est vrai moins que... bon que le précédent, oui. Oui, et encore.
Bah, un peu différent, mais je dirais encore une fois, le plus gros handicap pour moi de ce Mario Kart World, c'est qu'il doit succéder à Mario Kart 8, qui a quand même des chaussures très très grandes à remplir. C'est vraiment. T'as un boulot costaud pour arriver à concurrencer un jeu avec 96 putains de circuits, quoi. Et puis des modes en veux-tu, en voilà, une durée de vie complètement ouf, une physique au poil. Enfin voilà, la physique est toujours au poil, y a pas de souci. Mais encore une fois, si tu joues à Mario Kart World façon Mario Kart 8, bah en fait tu vas peut-être t'ennuyer. Si tu commences à y jouer façon Mario Kart World en profitant des nouveautés, là tu vas commencer à t'amuser un peu plus. Je pense que c'est, à mon avis, surtout ça qu'il faut en tirer. Voilà. Est-ce que c'est ça qui te fera acheter une Switch 2 ? Si t'étais indécis,
non. Alors, non, par contre, Bananza, oui.
Par contre, Bananza, peut-être. Mais Bananza, peut-être qu'on en parlera la prochaine fois, parce que là, il est quand même très très tard, il va quand même falloir qu'on rende l'antenne à un moment. Voilà. Je suis très 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 content d'avoir animé cette émission, qu'on ait enfin parlé un peu de Mario Kart World, parce qu'on se l'était gardé sous le pied depuis un petit moment. Ça fait toujours plaisir.
Et on a une réponse à un grand mystère, c'est qu'un Goomba peut conduire pas de bras, rien à foutre.
Une vache peut conduire. Donc.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'elle a des bras. Elle ne conduit pas avec ses pis. Déception.
Non, non. Oh putain,
t'étais... Moi, je suis désolé, je... Voilà.
On se retrouve, quoi qu'il arrive, dans deux semaines. Je ne sais pas quel sera le sujet de l'émission. Si on a rien de chaud en termes d'actualité, je pense qu'on parlera un petit peu de Donkey Kong Bananza. Il faut qu'on en parle. J'en profite pour faire une petite auto-promo. On a un article qui a mis longtemps à sortir. D'habitude, vous savez, l'été, on n'a pas d'émission, on n'a pas de Twitch, donc on essaie de faire des dossiers un peu plus compliqués, de revenir sur une série de jeux, un truc comme ça. On a les archives de Cranky, on a Tales from the Backlog, on a quelques séries d'articles comme ça qu'on essaie de compléter l'été. Là, cet été, ça a été un peu compliqué. Alors, parce qu'on s'est lancé un défi un peu beaucoup long, on a un peu déconné là-dessus. Donc du coup, ça se terminera probablement au cours de l'automne, on va être très honnête.
Mais réchauffement climatique, l'été, ça dure jusqu'au mois de novembre.
Voilà. On est d'accord. Mais voilà, on a un dossier sur Donkey Kong Country qui est en préparation. Le premier épisode est sorti. Donc on a rejoué à l'intégralité des Donkey Kong Country, toutes plateformes confondues.
Ces gens les versions sont Super NES,
les versions GBA, la version Game Boy Color, puisque oui, il y en a une pour Donkey Kong Country 1. On a joué à Donkey Kong Country 2, on est en train de faire Donkey Kong Country 3, on est en train d'écrire l'article de Donkey Kong Country 2. L'idée, c'est vraiment d'aller balayer tout le truc et de se poser la question, bah, est-ce que ça vaut le coup d'y jouer aujourd'hui, et sur quelle plateforme, et sur quelle version il faut jouer, parce que c'est quand même des jeux qui ont un peu évolué dans le temps. Voilà. Et on aura un petit entrefilet Donkey Kong Land à la fin, parce que c'est la série petite sœur, mais qui est intéressante sur certains aspects. Voilà, donc je vous encourage à aller lire ça. Peut-être, et la correction est faite par un mec qui est comme ça, un gars, vraiment un mec qui sait corriger les fautes d'orthographe et faire une critique de l'article derrière en disant c'est vraiment de la merde ce que t'as écrit. Ça fait toujours plaisir. Mais voilà, donc on avait un correcteur de ouf. Donc il est garanti sans faute d'orthographe. Voilà. Il y a eu un très gros boulot et je sais qu'il y a un gros fan de Donkey Kong Country 3 qui est dans le chat actuellement. Je pense que l'article va lui faire plaisir. Peut-être qu'on reviendra un petit peu sur Donkey Kong Country aussi dans deux semaines, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait vraiment bien qu'on parle de Bananza, donc je pense qu'on va le faire. Bref, on vous fait de très très gros bisous, et on vous dit à dans deux semaines, et à dans une semaine en podcast. Voilà, ciao tout le monde.
Bisous.